7h, 9h.
Pierre de Villeneuve sur Europe 1.
Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 14 novembre. Elle nous laisse sans voix, cette terrible affaire de pédophilie révélée hier dans la Nièvre. 5 hommes, 3 femmes mises en examen pour viol et agression sexuelle répétée sur 4 enfants dès leur plus jeune âge. Les suspects, les parents et leurs amis. On vous en parle dès le journal de 7h. Actualité glaçante qui prend une résonance toute particulière alors que sort aujourd'hui en salle Les Chatouilles, ce film inspiré de l'histoire de la réalisatrice Andrea Bescon, abusée sexuellement quand elle était enfant. Je l'ai rencontrée pour Europe 1 Interview tout à l'heure à 7h45. Ça y est, le voilà, ou presque, un projet d'accord sur le Brexit a été conclu hier entre les négociateurs britanniques et européens. Il sera examiné aujourd'hui, ce mercredi, par Theresa May en Conseil des ministres. On retrouve nos correspondants à Londres et à Bruxelles dans le journal de 8h. Et puis le gouvernement calmera-t-il la colère des gilets jaunes? Le Premier ministre Édouard Philippe doit annoncer ce matin des mesures pour faire passer la pilule de la hausse des prix du carburant. À 3 jours de la mobilisation, on fera le point dans le journal de 8h. Est-ce que vous êtes encore sous la couette? Allez, bon courage, on vous accompagne. Votre matinale info, c'est jusqu'à 9h. Bon réveil à tous.
Merci d'avoir choisi Europe 1 ce mercredi 14 novembre. Il est 7h, excellent réveil. Votre matinale info, c'est avec Pierre de Villeneuve.
Et le journal avec Hélène Zélani. Bonjour Hélène.
Bonjour Pierre, bonjour à tous.
À la une ce matin.
Vous le disiez, une sordide affaire de pédophilie dévoilée dans la Nièvre. 8 personnes en garde à vue pour des faits commis sur 4 petits garçons. Des faits qui duraient depuis des années. Le gouvernement annonce ce matin des mesures pour contrebalancer la hausse des taxes sur le carburant. Pas sûr que ça calme la colère des automobilistes. Vous entendrez Steve qui fait 500 km chaque semaine. Et puis le téléphone fixe, tel qu'on le connaît, vit sa dernière journée. À partir de demain, Orange ne vendra plus de lignes à l'ancienne.
Europe 1.
Ce sont 4 petits garçons traumatisés qui vivent désormais dans des familles d'accueil depuis l'année dernière. Des enfants âgés aujourd'hui de 4 à 9 ans qui ont subi l'innommable, viol, violence, privation de nourriture. 5 hommes et 3 femmes sont mis en examen, dont leurs parents. La justice leur reproche près de 70 infractions. L'un des couples habite Châtillon en Bazois dans la Nièvre, un village de moins d'un millier d'habitants où tout le monde se connaît. Écoutez le reportage de Jeanne Bergaoui.
Sur la façade décrépite de la maison, les volets verts sont fermés. Nathalie, l'une des 8 personnes mises en examen, soulève le rideau de la porte d'entrée mais refuse de nous parler. À quelques pas, les voisins comme Paul surveillent cette mère de famille barricadée chez elle. Personne, selon lui, n'imaginait un tel huis clos.
Il faut voir l'état de la maison à l'intérieur, il faut voir tout ce qui se passe à l'intérieur. C'est malsain.
Voilà. Vous êtes entré, vous, dans la maison ?
Oui, c'est sale. C'est sombre, détruit. Les enfants n'étaient pas très propres. Mais après, vous dire qu'il y avait des attouchements, ça... Mais il y avait de la maltraitance, ça c'est sûr.
Soupçons de maltraitance, mauvaise fréquentation, misère sociale. Ici, tous décrivent le couple comme des marginaux. Le père avait même son surnom dans le village, explique cette patronne de bar.
L'hiver, il se promenait en Marcel. Donc on l'a appelé Rambo. Un cas social qui ne travaille pas et puis qui vole des mobilettes, on va dire. Il vole des légumes. Mais ça, c'est pas le genre de choses qu'on lui aurait pu lui mettre sur le dos. C'est une drôle d'affaire.
Sur les 8 personnes interpellées, les 5 hommes sont en détention provisoire. Les 3 femmes, elles, sont placées sous contrôle judiciaire. Châtillon en Bazois, Jeanne Bergaoui, Europe 1.
Et pour l'instant, l'enquête porte sur une période qui va de 2010 à 2017, ce qui veut dire que certains enfants ont été abusés dès leur plus jeune âge.
Et tout à l'heure à 7h45, dans 3 quarts d'heure, maintenant nous recevrons Andrea Bescon qui raconte les viols qu'elle a subis, les viols de l'amie de la famille quand elle était enfant dans le film Les Chatouilles qui sort aujourd'hui en salle.
Alors, il est 7h02.
La colère contre la hausse des prix du carburant, la parole est au gouvernement.
Oui, Édouard Philippe annonce tout à l'heure les mesures qui, en théorie en tout cas, doivent calmer la grogne des gilets jaunes, comme par exemple 2 fois plus de primes à la conversion vers des véhicules moins polluants. Une voiture électrique impossible pour Steve, prof d'anglais dans l'Orne. Il vit en pleine campagne à 20 km d'Alençon et travaille dans 3 établissements différents. Résultat, 500 km au compteur chaque semaine et des frais de gasoil qui ont grimpé de 50% en 2 ans. Quand on gagne 1 400 euros par mois, le carburant, c'est un budget énorme.
Mon école principale est à 11 km, la deuxième à 25 km et je vais à la fac du Mans à 75 km. Impossible de faire du covoiturage. Ici, c'est vraiment totalement isolé. Il n'y a pas de transport en commun. Je suis obligé d'y aller en voiture au quotidien. 200 euros de carburant par mois. On cherche vraiment la pompe la moins chère du coin. On a l'impression que les gens qui nous gouvernent, en fait, réfléchissent comme des citadins. À la campagne, toutes leurs bonnes idées sont mauvaises. Je me suis renseigné pour de l'électrique. Sauf que l'électrique à la campagne... C'est pas encore au point. La distance qu'on veut parcourir avec un véhicule n'est pas assez longue. 10 litres, 14,84 euros. on est à 50% d'augmentation quoi, par rapport à il y a un an et demi. Et 5 euros de différence, pour moi, c'est un repas. Là, j'ai consommé un repas en plus. Il y a des familles qui n'arrivent plus à boucler leur budget à cause des diesels. Ça fait mal au cœur. On n'en peut plus, là. Et on n'est pas écouté.
Voilà, un automobiliste de l'Indre rencontré par François Coulon pour Europe 1, Steve de Romanet, qui a d'ailleurs lancé l'opération des Gilets jaunes à Alençon. 2000 personnes sont attendues samedi. À Marseille, des perquisitions menées hier dans les services de la mairie, une semaine après l'effondrement de deux immeubles qui a coûté la vie à 8 personnes. Une nouvelle manifestation baptisée Marche de la colère est prévue ce soir à 18h.
Direction Londres maintenant, où Theresa May réunit cet après-midi son cabinet pour examiner le projet d'accord sur le Brexit conclu hier.
Oui, un accord conclu entre négociateurs européens et britannique, accord qui doit être impérativement approuvé pour permettre l'organisation d'un sommet exceptionnel. Hier soir, la Première ministre convoquait l'état-major de son gouvernement à Londres, Anaïs Cordoba.
Un par un, les principaux ministres franchissent la porte du 10 Downing Street. À l'intérieur, ils sont menés vers une salle de lecture. Selon la presse britannique, c'est dans cette pièce qu'ils ont pu avoir accès à une copie de l'accord de divorce, un document de plus de 500 pages. Leur verdict est attendu cet après-midi. S'ils l'acceptent, il faudra encore que cet accord soit ratifié par le Parlement britannique. Et hier soir, les réactions dans les couloirs de Westminster n'auguraient rien de bon. Devant les caméras, une nuée de députés Brexiters promettait de le rejeter, comme Boris Johnson, l'ex-ministre des Affaires étrangères.
Ça ne pouvait pas être pire. Nous allons rester indéfiniment dans l'union douanière et donc nous ne pourrons pas conclure d'accords de libre-échange avec d'autres pays ni reprendre le contrôle de nos lois. Nous serons soumis aux lois de l'Union européenne sans participer à leur élaboration. C'est la catastrophe.
Déjà lâchée par l'aile la plus eurosceptique de son parti sur cet accord, Theresa May aura donc désespérément besoin des voix des députés travaillistes qui n'ont pour l'instant montré aucun signe de ralliement. Londres, Anaïs Cordoba, Europe 1.
En Californie, malgré les efforts des pompiers, les incendies de forêt sont loin d'être éteints. Le principal dans la région de Sacramento n'est contenu qu'à 35%. 5000 policiers restent mobilisés. Le bilan avoisine la cinquantaine de morts. Et notre correspondant Benoît Clerc nous précise que selon les pompiers, plus de 100 personnes pourraient avoir péri dans la ville de Paradise.
Europe 1.
Dans un instant, la suite de votre journal, Hélène Zelani, avec des tweets rageurs de Donald Trump contre Emmanuel Macron. Et puis notre bon vieux téléphone fixe, le 22 à Asnières, qui disparaît ou presque. À tout de suite sur
Europe 1. FR.
Les 7h07, votre matinale info, Pierre de Villeneuve.
La suite du journal Hélène Zelani est furieux Donald Trump. Le président américain semble ne pas avoir vraiment apprécié sa visite en France.
Oui, hier, il a publié des tweets en rafale pour attaquer Emmanuel Macron tous azimuts, sa faible cote de popularité ou sa volonté de créer une armée européenne. Preuve, s'il en fallait, des tensions entre les deux présidents, Jean-Rémy Baudeau.
Oui, c'est un nouvel épisode dans le bras de fer permanent entre les deux hommes. Depuis maintenant un an et demi, Emmanuel Macron et Donald Trump jouent sur deux tableaux. D'un côté, des accolades généreuses, des poignées de mains appuyées, des embrassades répétées. Mais de l'autre, il y a ces tweets rageurs de Trump et les déclarations du président français qui fustigent par exemple le nationalisme. Emmanuel Macron qui ne cache pas ses divergences avec son homologue et qui est allé jusqu'à le dire devant le Congrès américain quand il avait dénoncé la position de Trump sur le climat. L'Élysée tente de relativiser ses passes d'armes, explique que ses tweets sont avant tout destinés aux électeurs américains. Leur relation n'est pas toujours facile, mais elle est continue. Ils se parlent plusieurs fois par semaine, plaide un proche conseiller du président Macron. Reste à savoir si cet équilibre peut tenir sur la longueur. La prochaine poignée de main Macron-Trump, ce sera au G20 en Argentine à la fin du mois. Elle sera évidemment à observer de très près.
Jean-Rémy Baudeau, et d'ici là, Emmanuel Macron pourra revenir sur ses attaques américaines. Il sera ce soir en direct dans le 20h de TF1 depuis le porte-avions Charles de Gaulle.
À partir de demain, notre téléphone fixe à l'ancienne, c'est terminé.
En fait, Orange arrête de commercialiser les lignes avec lesquelles on branche directement le téléphone sur la prise murale en forme de T. La technologie va changer, mais les lignes existantes vont encore fonctionner pendant 5 ans. Il faut savoir que 9 millions de foyers ont toujours un abonnement traditionnel avec ce type de prise. 2023, c'est loin, mais ça grogne déjà, François Geffrier.
N'allez pas parler à Lucie, 78 ans, de cette histoire de prise de téléphone, ça l'énerve.
Alors moi, je suis pas contente. Nous, on a nos habitudes avec notre fixe.
Il y aura toujours le fixe,
oui,
mais il faudra
amener un appareil pour brancher encore un appareil en plus.
Un boîtier qu'on installera soi-même, sinon il en coûtera une centaine d'euros. Claude, qui habite Périgueux, trouve qu'on ne doit pas forcer les usagers à changer de technologie.
C'est enfermer les gens dans une technique. Si tu l'as pas, tu deviens ringard, on veut bien qu'il y ait une nouvelle technologie, mais pas pour autant enlever les bonnes choses du passé.
Les seniors ne sont pas les seuls à se poser des questions. Belinda, 32 ans, fleuriste, utilise un fax branché sur sa prise de téléphone.
On reçoit des commandes qui peuvent aller entre une par jour et une centaine au moment de certaines fêtes.
Vous, si on vous dit la prise murale, elle ne fonctionne plus ?
Moi, à partir du moment où je peux conserver le numéro de téléphone que nous avons depuis une trentaine d'années, que nos clients connaissent, ça ne me dérange absolument pas.
Renseignement pris auprès d'Orange, le fax fonctionnera toujours, même dans 5 ans et avec le même numéro.
Ouf, on est soulagé. Merci François Geffrier.
Merci Hélène Zélani. L'actualité vous interpelle. On vous attend sur le répondeur du 79 le 39 21.
Oui, et puis sur les réseaux sociaux également, comme Hubert, Sophie, Marc Falcoen ou encore Benjamin qui sont déjà avec nous. Envoyez-nous vos messages avec le hashtag Europe 1. Il est 7h10.
La matinale d'Europe 1. Pierre de Villeneuve.
Tout de suite, l'édito éco de Nicolas Barret. Pierre.
Bonjour Nicolas.
Bonjour Pierre.
Nicolas Barret, directeur de la rédaction du journal Les Échos. L'économie française a créé 30 000 emplois au troisième trimestre. C'est bien, mais à la fois c'est peu.
Ah oui, c'est peu. Alors, c'est quand même un peu mieux que sur le début de l'année. Mais le pic des créations d'emplois remonte maintenant au dernier trimestre de l'année dernière. Il faut dire que la croissance était plus forte à l'époque. À l'époque, pour situer les ordres de grandeur, les effectifs du secteur privé étaient en hausse de 356 000 personnes sur un an. Aujourd'hui, on est sur plutôt une hausse de 211 000 sur un an. Alors, ça reste un rythme relativement soutenu de création d'emplois. Ça montre que la politique de baisse du coût du travail enclenchée dans la deuxième moitié du quinquennat précédent produit ses effets entre 2015 et 2017, notre économie aura quand même créé 600 000 emplois. C'est une performance.
Et cette politique n'a pas encore produit tous ses effets.
Effectivement, alors c'est ce qui rend un peu optimiste, parce que la pérennisation des baisses de charges, les ordonnances Pénico sur le travail, la réforme à venir de l'assurance chômage, les réformes de l'apprentissage, de la formation professionnelle, bref, toutes ces réformes qu'on appelle structurelles doivent produire ses effets, pas tout de suite, mais enfin à un horizon de 1, 2, 3 ans. Exemple, beaucoup d'entreprises font état d'une pénurie de compétences dans certains domaines, dans l'industrie en particulier. Eh bien, typiquement, ça prendra du temps avant que les efforts en matière de formation répondent à ce problème. Résultat, en attendant, la France reste l'un des pays développés où le taux de chômage est le plus élevé, 9,1%. Au rythme actuel de création d'emplois, eh bien, ça ne changera pas très rapidement.
Nicolas Barret, l'édito éco tous les jours à 7h10 sur Europe 1. Merci.
Et à 7h12, on retrouve Carole Ferry. Pierre, elle est sur le terrain.
Elle est chaque jour au plus près de vous, au plus près de votre actualité. Bonjour Carole.
Bonjour Pierre, bonjour à tous.
Vous êtes où ce matin ?
Eh bien, je suis dans une ville qui se reconstruit. Autour de moi, j'ai des bulldozers, des maisons vides. Je suis à Trèbes, dans l'Aude. On est un mois, jour pour jour, après les inondations meurtrières qui ont ravagé la ville. Et ici, la vie reprend très doucement. Très difficilement. Il y a Philippe, par exemple. Il tient un garage juste à côté du Super U. Vous savez, là où il y avait déjà eu un attentat il y a 8 mois.
On a des bureaux de fortune. On a de l'informatique depuis cette semaine uniquement. On n'a pas encore un standard téléphonique. On travaille dans des conditions qui ne sont pas faciles, quoi.
Comment va le moral ?
Ah, le moral, il y a des hauts, il y a des bas. Donc il nous tarde qu'on soit en capacité de faire notre vrai travail et pas gérer des conflits qu'on peut avoir avec des experts, des assurances.
C'est ce qui se passe ?
Oh, c'est jamais facile, quoi. L'assureur, lui, il veut payer le moins possible. Et nous, bon, on aimerait au moins retrouver un outil de travail tel qu'il était avant l'inondation, quoi. La malchance s'est posée un peu sur Trèbes, mais ça, je sais très bien que les beaux jours vont revenir.
Carole, il y a encore beaucoup de familles qui n'ont pas pu rentrer chez elles.
Bah écoutez, plus de 350 familles, hein, ouais. 1000 personnes au total, toujours hébergées chez des proches ou dans des logements provisoires. Alors les sinistrés viennent régulièrement vider leur maison, recevoir les experts et parfois déjeuner chez Sylvie, le seul restaurant qui a rouvert.
Et on vivote, on ne travaille pas, on vivote. C'est dur, hein. Mais moi, psychologiquement, il fallait que j'ouvre, de toute manière. Et pour les sinistrés, qu'ils aient un endroit convivial où se retrouver, tout ça. Parce que entre ça et les attentats, j'étais pas encore remise des attentats, moi. Et il fallait que j'évacue, et donc les psychologues sont venus me voir 2 fois, et puis voilà. Ça va mieux, je peux en parler sans pleurer maintenant.
Ouais, elle est digne, hein. Elle est digne, Sylvie. On sent beaucoup de pudeur chez elle, le dur retour à la réalité et la vraie vie. On sait quand est-ce qu'elle pourra reprendre.
Bah écoutez, les maisons ne seront pas habitables avant au moins 1 an, hein, le temps qu'elles sèchent, que les assurances donnent leur feu vert, le temps des travaux. Pour le reste, eh bien, il faut bien comprendre que Trèbes est maintenant coupé en deux. Il y a la zone sinistrée au sud, là, l'école, la piscine, la maison de retraite, tout va être rasé et reconstruit au nord. Ceux pour qui c'est le plus dur, ce sont ceux qui sont hébergés très loin, comme Carmen. Elle a trouvé une maison, mais à 60 km et elle ne supporte plus les allers-retours pour aller travailler, s'occuper de sa maison. Surtout, ses 5 enfants vivent très mal le changement d'école.
C'est dur parce que les enfants ne veulent plus aller à l'école de là-bas. Ils veulent revenir sur Trèbes. Ils me le disent, maman, qu'est-ce qu'on fait là? On doit partir. Je dis, mais je ne peux pas partir. Et ça, les enfants, ils le prennent très mal. Même si, maman, on rigole, on s'amuse, il y a un autre moment qu'on se met avec les enfants, on dit, putain, on a tout perdu. On n'a plus rien.
Et voilà, vous voyez, Pierre, un mois après, tout le monde est au sec, mais la vie est très loin d'avoir repris un cours normal.
Merci Carole. Carole Ferry à Trèbes, dans l'Aude, un mois après les inondations meurtrières qui, rappelons-le, ont fait 14 victimes d'innombrables dégâts. Nous étions allés les voir, hein, tous ces habitants, avec Nikos. On pense à eux. Europe 1 n'oublie pas. Vous êtes tous matin, tous les jours à 7h12.
Europe 1.
Mais il est 7h15. Restez avec nous sur Europe 1 à suivre Pierre de Villeneuve.
Si vous avez pris le train récemment, vous avez peut-être remarqué ces files d'attente interminables devant les guichets des gares, tout simplement parce que les guichets ferment petit à petit. Pourquoi? Quelles conséquences sur nous? Enquête à suivre dans Europe 1 va plus loin.
7h, 9h, Pierre de Villeneuve sur Europe 1.
Il est 7h18, les principaux titres de l'actualité à retenir ce matin, Pierre Devigny.
Le gouvernement va tenter de calmer la colère des gilets jaunes, annonce d'Edouard Philippe, attendu ce matin à 3 jours de la grande mobilisation nationale. 8 personnes mises en examen dans une affaire de pédophilie dans la Nièvre. Les victimes sont 4 petits garçons, aujourd'hui âgés de 4 à 9 ans. Emmanuel Macron condamne fermement les tirs de roquettes du Hamas sur Israël et appelle à éviter toute escalade.
Europe 1.
Pierre de Villeneuve, Europe 1 va plus loin ce matin dans les gares de France.
Est-ce l'une des premières conséquences concrètes de la réforme ferroviaire? Vous l'avez peut-être remarqué, les fermetures de guichets dans les gares se multiplient partout en France. Quelles conséquences sur nous, les usagers? Bonjour Aurélien Fleureau.
Bonjour.
Spécialiste transport de la rédaction d'Europe 1. Aurélien, ce qui est frappant, c'est que ça concerne aussi bien les petites que les grandes gares.
Oui, l'un des exemples les plus spectaculaires, c'est à la gare de Lyon à Paris, l'une des 3 gares les plus fréquentées de France. Depuis le 1er septembre, 16 guichets ont fermé. Il n'en reste plus que 22. Il y en avait 3 fois plus il y a 5 ans. Conséquence, les longues files d'attente se multiplient dans le dernier espace de vente, là où j'ai croisé Olaf qui cherchait à changer de billet.
On a vu qu'il y avait une queue assez importante là au guichet. Donc comme nous on veut changer de train, on ne sait pas exactement à quelle heure on doit repartir. Et on a dit bon, on va essayer sur la machine, quoi. Voilà, c'est tout. C'est dommage qu'il n'y ait plus de contact humain, que ça soit tout fermé partout, quoi. Voilà la stratégie SNCF, c'est ça, hein.
Une situation mal vécue également par le personnel de la SNCF. Derrière un guichet depuis plus de 20 ans à la gare de Lyon, Johanna constate au quotidien le mécontentement des usagers.
On fait plus de mission de service public, clairement. On est là pour cacher un peu la misère et voit beaucoup de voyageurs où ils viennent se plaindre. Il y a des moments en fait où on bosse tellement à flux tendu, il y a tellement d'attentes qu'on est obligé de fermer les guichets qui s'occupent de la préparation au voyage, donc les réservations ultérieures. On est obligé de faire du départ immédiat et du coup on refoule les gens qui comprennent pas, quoi.
Des guichets en moins, on l'a entendu, mais ce sont aussi parfois des fermetures pures et simples de gares.
Oui, vous avez de plus en plus de gares totalement vides où il n'y a plus qu'une borne automatique pour acheter un billet. Pas une région n'y échappe. Exemple avec Philippe Denol, président d'un collectif d'usagers de plusieurs lignes du sud de la Normandie.
Quand ils ont fermé le guichet de la gare d'Avranches, ils avaient mis une pancarte sur la porte où ils conseillaient aux gens d'aller à Granville, qui se situe à 35 km pour aller acheter des billets. Ben on a l'exemple de la gare de Pont-Orson-Mont-Saint-Michel. La personne qui était au guichet parlait quand même plusieurs langues couramment, donc rendait énormément de services aux touristes, et ce qui commence à compliquer la vie des gens. Et on voit aujourd'hui nombreux commerçants, nombreux usagers qui commencent à se révolter par rapport à cette situation, parce que c'est aussi un élément important pour le développement de l'activité économique et surtout pour le tourisme.
Du côté de la SNCF, l'objectif est affiché. Il n'y aura plus un seul agent derrière un guichet TER en 2020, puisque désormais, la majorité des ventes de billets se fait en ligne. Ces guichets seront notamment remplacés par des camions itinérants. C'est un dispositif qui est testé en ce moment dans les Pays de la Loire.
Merci Aurélien Fleureau. Justement, ces expérimentations en région, on va en parler avec Michel Neuniot. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le premier vice-président de la région Bourgogne-Franche-Comté. Vous êtes chargé des transports au sein de l'association Région de France. Dans votre région, vous avez ciblé 20 gares qui progressivement vont fermer. D'abord, comment est-ce que vous avez fait ces arbitrages?
Alors déjà, je tiens à dire, ce ne sont pas 20 gares qui vont fermer. C'est la prise en compte. La gare ne ferme pas. La gare ne ferme pas. Ce que nous constatons, c'est que l'usage du numérique se développe. Nous sommes devant une révolution du numérique et la grande difficulté, c'est comment gérer cette évolution. Ce que nous refusons, c'est effectivement le fait accompli. Imposé au maire. Donc ce que nous avons prévu, c'est
lequel,
un travail.
Lequel de fait accompli?
Le maire qui constate qu'il a une gare, des trains qui s'arrêtent, ouais. Et il n'y a plus de présence humaine dans les gares. Plus de guichets dans les gares. Donc ce que nous proposons, c'est une méthode totalement nouvelle. Nous souhaitons débattre de l'évolution des nouvelles technologies et d'apporter, de voir s'il y a des solutions nouvelles qui sont possibles.
Déjà, avec ou sans Internet, parce qu'il y a des gens qui sont largués avec Internet.
Justement, c'est tout l'accompagnement du changement. Nous avons deux révolutions devant nous, la révolution écologique, où il faut faire les choses différemment, on voit avec le mouvement des gilets jaunes, et la révolution du numérique, où tout va être digitalisé progressivement. Et si on ne fait rien, si on n'accompagne pas les usagers dans cette démarche-là, ça va être une catastrophe.
Mais pour les agents aussi, qu'est-ce qu'ils vont devenir, tous ces agents?
Les agents, ce qui est prévu dans ce que nous proposons, mais c'est que les agents vont être toujours présents, mais au plus près des usagers pour développer l'usage du train.
Donc ils seront là.
Et renseigner. Mmh. Et renseigner, mais pas forcément dans la gare. Forcément dans la gare. Et d'autre part, la possibilité de distribution des kits de transport, parce que nous pensons à ceux qui n'ont pas Internet, la distribution des kits de transport, par la poste directement chez les usagers.
Voilà donc l'alternative que vous proposez. Merci Michel Neugnot, premier vice-président de la région Bourgogne-Franche-Comté. Merci d'avoir été avec nous. Europe 1 va plus loin tous les matins à 7h20.
Europe 1. Il est 7h24, Pierre Duvineau à suivre.
Avec l'innovation et Anissé Mbida, il va nous parler d'une étiquette qui pourrait bien réduire drastiquement le gaspillage alimentaire. À tout de suite.
La matinale d'Europe 1.
Il est 7h27.
Retrouvez l'innovation du jour avec EDF.
Et avec Anissé Mbida, Pierre de Villeneuve.
Bonjour Anissé.
Bonjour Pierre.
On le sait, il y a beaucoup de produits qui sont jetés à cause des dates de péremption, mais vous nous dites que tout ça va changer avec des étiquettes qui donnent vraiment l'état de fraîcheur du produit.
Oui, ça sera plus une estimation théorique du fabricant en fonction d'une typologie moyenne de conservation pondérée d'une grosse marge de manœuvre, histoire d'être bien tranquille. Non. Là, ce sont les étiquettes avec un petit mélange à l'intérieur qui se dégrade exactement de la même façon que le produit qui est emballé. Donc, quand le lait, les œufs ou la viande ont tourné, eh bien toc, l'étiquette change d'aspect et pour nous dire, mais là attention, hein, ça vaut mieux éviter d'en manger.
Étiquette fraîcheur, ça me rappelle quelque chose. Il y a eu ça à un moment.
Exactement, il y a quelques années, vous avez peut-être remarqué que ça a disparu parce que c'était pas très fiable.
Hein. C'est ça.
Là, ça a rien à voir. Hein. La nouvelle génération, elle est beaucoup plus précise. Elle peut vous prévenir s'il y a une rupture dans la chaîne du froid, alors que les autres anciennes étiquettes fraîcheur, c'était grosso modo un petit morceau de papier qui se contentait de noircir avec le temps. Donc, ces nouvelles étiquettes peuvent vraiment remplacer la date limite de consommation. Et vous savez quelle est la prochaine étape?
Non.
Eh bien, c'est de mettre ces mêmes étiquettes, mais les personnaliser, c'est pour les restes. Donc, on a un plat de pâtes, un plat de viande en sauce. On colle l'étiquette dessus sur le Tupperware. Mm-hmm. On la programme pour le plat qui est à l'intérieur et elle vous préviendra exactement quand les aliments à l'intérieur ne seront plus mangeables.
Il faut se dépêcher de manger. De toute façon, merci Anissé Mbida, l'innovation toujours bonne à consommer tous les jours à 7h25.
C'était l'innovation du jour avec EDF. Accompagnement, soutien financier avec les prix EDF Pulse. EDF met en lumière les startups qui inventent notre avenir électrique. Plus d'infos sur edf.fr.
Dans un instant, le journal de Céline Kallmann.
La météo avec Rénoval, le réseau national de véranda et abri piscine.
Mais tout de suite, la météo avec Laurent Cabrol, Pierre.
Quel temps aujourd'hui, Laurent?
Je dois dire que les brouillards, j'en parle depuis ce matin, et Céline en parlait aussi, hein, bien sûr, les brouillards m'inquiètent un petit peu parce qu'ils ont tendance à se multiplier, à s'épaissir. Je vois des visibilités parfois autour de Paris, n'excédant pas 100 mètres. En général, c'est 300, 400 mètres, mais ils sont quasi généralisés. Vraiment, c'est un temps très gris sur le pays, avec quelques nuances qui vont s'établir dans l'après-midi. En Bretagne, et puis dans les vallées, Garonne, Seine, Rhône, là nous aurons quelques rayons de soleil, mais sans plus. Et sur la vallée de la Saône et le Languedoc-Roussillon, un voile très épais. Le Languedoc-Roussillon, même avec un petit peu de pluie, car le vent marin souffle. Bref, c'est une journée qui aurait pu s'annoncer presque ensoleillée, et elle se dirige vers un temps très gris et souvent couvert. Les températures maximales baissent maintenant avec ces brouillards, et nous aurons 12 à 15 degrés sur la moitié nord et 18 à 20 degrés sur la moitié sud.
Merci Laurent Cabrol. Prochain point Mathéo, juste avant le journal de 8h.
À suivre Pierre Devineau.
Les incendies en Californie, 50 morts au dernier bilan, catastrophe naturelle aussi pour nous, Européens, nous dira Jean-Michel Apathy dans 10 minutes.
Nous sommes le mercredi 14 novembre, il est 7h30.
7h, 9h.
Pierre de Villeneuve sur Europe 1.
Le journal à 7h30, Céline Kallmann. Bonjour Céline.
Bonjour Pierre, bonjour à tous. Les gilets jaunes, plus que 3 jours avant la mobilisation. D'ailleurs, Édouard Philippe, le Premier ministre, doit annoncer ce matin des mesures pour tenter d'apaiser la grogne face au prix du carburant. Le gilet, donc, symbole d'une mobilisation qui touche la France entière. Depuis quelques jours, ce fameux gilet jaune s'arrache dans les points de vente. C'est ce qu'a constaté le réseau Feu Vert. Julien Manuguera est chef de groupe achat et marketing.
On est sur des volumes de l'ordre de 3 à 4 fois supérieurs à ce que y est pratiqué habituellement. Donc rien que sur les 12 premiers jours du mois de novembre, on a déjà dépassé l'ensemble des ventes du mois d'octobre dernier. Alors je ne sais pas si ça augure d'une grosse manifestation le 17 novembre, mais en tout cas, on a vendu beaucoup plus de gilets de sécurité que les semaines précédentes. On en vend beaucoup de toute façon. Maintenant, il y a quand même un effet pic de vente indéniable. Donc j'imagine que certains se sont équipés en prévision du week-end.
Julien Manuguera avec Anne-Laure Jumet pour Europe 1. C'est un constat alarmant pour les associations. Les dons sont en baisse pour l'année 2018. Le baromètre de France Générosité indique que le montant collecté au premier semestre a chuté de 6,5%. Une baisse expliquée notamment par la hausse de la CSG chez les retraités ou encore la mise en place prochaine du prélèvement à la source. Le siège du bailleur social Marseille Habitat, qui dépend de la mairie, a été perquisitionné hier, une semaine après l'effondrement de 2 immeubles où 8 personnes sont décédées. Rassemblement intitulé Marche de la colère est prévu ce soir à 18h.
Il n'existe sans doute pas de mots pour décrire ce qu'ont dû endurer 4 enfants pendant des années.
4 garçons de 2 familles différentes, âgés de 4 à 9 ans, victimes de leurs parents et des amis de ces derniers, victimes de viols et d'agressions sexuelles à répétition. Cela s'est passé dans la Nièvre. 8 personnes ont été mises en examen, 5 hommes écroués.
Et dans 10 minutes, Andréa Bescon qui sort le film Les Chatouilles qui traite de la pédophilie. On en parle donc dans 10 minutes.
Le procès Tron touche à sa fin, réquisitoire attendu aujourd'hui, les 2 accusés, Georges Tron et son ex-adjointe Brigitte Gruel, on y est en bloc. Les faits qui leur sont reprochés, viol et agression sexuelle sur 2 anciennes employées. Mais pour l'avocat d'une des plaignantes, il y a suffisamment d'éléments pour les condamner.
Il y a toute une série d'éléments, des témoignages en ribambelle, un copier-coller des mêmes méthodes, avant, pendant, après. Et puis il y a cette façon de peut-être trop en faire du côté de la défense ou de M. Tron, c'est-à-dire de se prémunir par des dossiers avant même que les choses n'éclatent. Et ça signe le crime.
En face, on vous dit, finalement, elle a voulu se venger de son licenciement. Ça tient, ça, pour vous?
Alors, le licenciement 2009, déposé plainte plus de 2 ans après, pour des faits aussi graves que les faits de viol, déjà là, c'est incongru. Mais tenir les années durant lesquelles elle a dû tenir, avec des attaques, y compris pendant l'audience, bien sûr que ça ne tient pas. C'est absurde.
Maître Loïc Guérin au micro Europe 1 de Guillaume Bier. Convaincre ses ministres, c'est la lourde tâche qui attend Theresa May aujourd'hui après l'accord conclu hier sur le Brexit par les négociateurs européens et britanniques. Un accord sur le point de crispation, la frontière irlandaise. Aux États-Unis, le bilan des incendies s'élève à plus de 50 morts ce matin. Plus de 6500 habitations ont été détruites.
Europe 1, il est 7h33.
Alerte à la rougeole en Ile-de-France. 56 cas recensés au mois d'octobre.
Pour l'instant, les autorités sanitaires ne parlent pas encore d'épidémie, même si la situation est préoccupante, particulièrement en Seine-Saint-Denis, là où se sont déclarés l'essentiel des cas. Un seul mot d'ordre ressassé par le directeur général de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France, il faut se faire vacciner.
En se vaccinant, c'est comme ça qu'on stoppe la progression de cette maladie. Et chaque personne atteinte peut contaminer entre 15 et 20 personnes. Et la rougeole, ça n'est pas une maladie anodine. Moi, ce qui me préoccupe, c'est qu'à partir du 10-15 décembre, on a traditionnellement l'arrivée des grippes à l'hôpital. Et notre bagarre, c'est d'éviter que ces deux maladies se croisent, et notamment se croisent dans les hôpitaux et dans les urgences.
Aurélien Rousseau avec Mélanie Gomez.
C'est un constat, recruter des profils qualifié en France n'est pas évident. Chez les cadres et hauts dirigeants, c'est quasiment le plein emploi.
Oui, c'est ce qui ressort du baromètre des entrepreneurs OpinionWay MMA en partenariat avec Europe 1. Pour 66% des personnes interrogées, ils n'arrivent pas à trouver les personnels qualifiés. C'est le cas de Guillaume Richard. Il est PDG du service à la personne WeCare implanté au Mans.
Les postes de direction, les postes très hautement qualifiés, les postes dans le digital sont un peu plus compliqués à trouver au Mans parce que ce sont des profils qui sont relativement rares malgré tout même. Au niveau français, vous en avez quelques-uns des profils, mais ils sont très souvent en emploi et vous n'allez pas les débaucher chez vos collègues. Donc vous allez plutôt essayer d'attirer des profils venant de la région parisienne ou venant d'autres régions. Et c'est exactement pour ça qu'on déplace notre siège social juste à côté de la gare du Mans. On pense que ça va être un vrai atout énorme pour aller pouvoir chercher des talents, bien évidemment.
Guillaume Richard avec Maud Descamps pour Europe 1. La route du Rhum se poursuit. Les prochains bateaux devraient arriver demain à Pointe-à-Pitre, celui d'Armel Tripon. Thomas Coville, lui, victime d'une avarie, a pu reprendre la course et il se trouve actuellement au large du Maroc. Corinne Boulou l'a joint pour Europe 1.
On va pas tarder à arriver au large de Agadir pour longer les îles des Canaries et peut-être même aller jusqu'au Cap-Vert. Vous allez me dire, c'est pas trop la direction de la Guadeloupe, tout ça, et bien non. Mais les conditions météorologiques en Atlantique sont tellement désastreuses qu'il a fallu qu'on trouve une solution de repli pour faire le grand tour au portant. Ce qui finalement rend la glissade plutôt sympa, mais par contre rallonge considérablement la route. Voilà, et là ça déboîte. Hein.
Thomas Coville avec Corinne Boulou pour Europe 1.
Merci, c'était le journal de Céline Kallmann. N'hésitez pas à réagir sur le répondeur de la matinale.
Oui, pour ça c'est très simple, hein. Vous nous appelez au 3921, le standard vous est ouvert, mais aussi sur les réseaux sociaux, envoyez-nous vos messages avec le hashtag Europe 1.
Europe 1.
Mais il est 7h36.
Bonjour Jean-Michel Abati.
Bien.
Le bilan s'alourdit en Californie, 50 morts, Californie ravagée par les flammes.
Oui, et ce qui est hélas intéressant ce matin, quand on parle des incendies en Californie, enfin c'est pas intéressant, c'est effrayant. En fait, c'est que des incendies comme ça pourraient bientôt survenir en Europe. Les spécialistes parlent de méga incendies et bien entendu, c'est lié au dérèglement climatique que l'on connaît.
Merci, à tout de suite.
Il est 7h40, Pierre Devineau, l'heure de retrouver Jean-Michel Apathy.
90 000 hectares partis en fumée, 9 000 pompiers déployés, on parle déjà d'au moins 50 morts en Californie. Jean-Michel Apathy, les chiffres sont hallucinants, vous nous mettez en garde parce que ça pourrait se produire en Europe.
Oui, bien sûr, dans quelques années, c'est ce que nous pourrions connaître en Europe. Les spécialistes parlent de méga incendies, pas d'incendies, mais de méga incendies, et nous pourrions connaître cela dans les prochaines années. Évidemment, la Californie est habituée aux incendies, c'est une terre qui brûle souvent, mais là, les pompiers qui sont confrontés à ce cataclysme dans le nord de la Californie. Le feu a démarré le 8 novembre, insiste sur un point. C'est la vitesse de déplacement du feu. C'est ça qui les stupéfait dans la séquence qu'ils sont en train de vivre depuis 6 jours. Et certains des responsables de la lutte contre cet incendie-là parlent d'ouragan de feu. Ce qui est une expression tout de même qui rend bien compte de la situation qu'ils vivent. Pourquoi cet incendie ne ressemble pas aux autres? Parce que cette partie de la Californie, depuis 2014, est engagé dans une sécheresse d'une très grande intensité. 4 ans de sécheresse. Toutes les barrières naturelles sur la terre que sont les ruisseaux, les cours d'eau ont disparu. Et du coup, quand le vent souffle le feu sur la terre, le feu va plus vite qu'il n'a jamais été sur cette terre. Ça explique le bilan humain. C'est que des gens pensaient échapper aux flammes. Oui. Et puis ils ont été rattrapés, happés, saisis par le feu. C'est spectaculaire. Il faut aussi parler du bilan matériel qui pose un gros problème. Des milliers d'habitations et des milliers d'entreprises sont détruites. La facture qu'auront acquitté les assureurs sera sans doute l'une des plus lourdes de l'histoire, ce qui peut compromettre jusqu'à l'économie de cet État très riche. Parce que s'il n'y a plus d'assurance, les tarifs d'assurance peuvent devenir prohibitifs sur cette terre-là, il n'y a plus d'économie. En quoi cela nous concerne-t-il? La végétation californienne ressemble à la végétation méditerranéenne. Elle a cette fragilité-là.
C'est vrai.
Et toutes les terres du pourtour de la Méditerranée aujourd'hui, sont entrées elles aussi dans une phase, décidément, de sécheresse. Depuis des années, les étés sont plus chauds les uns que les autres. On bat des records de température. Les printemps et les automnes manquent de pluie. Et donc, ce qui peut se produire dans quelques années, ici, en France, dans les pays européens au bord de la Méditerranée, est déjà ce qui se produit aux États-Unis et notamment donc, ou précisément en Californie. Nous n'avons pas conscience, c'est ça le problème, de la rapidité du dérèglement climatique et de la violence des conséquences du dérèglement climatique. Il ne faut pas parler de réchauffement, mais de dérèglement climatique. Et pour tenter d'ouvrir les yeux sur cette réalité, il faut peut-être adopter dans l'actualité cette formule. Ce n'est pas la Californie qui brûle, c'est notre terre qui brûle.
Merci Jean-Michel Apathy, tous les jours à 7h40. C'est vous qui le dites, chaque matin vous réagissez, c'est contagieux votre truc. Chaque matin vous réagissez à l'actualité sur le répondeur d'Europe 1, le 3921. Et un sujet bien sûr qui vous fait énormément réagir cette semaine, ce sont les gilets jaunes, leur mobilisation pour samedi. Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, prévient, partout où il y aura blocage, nous interviendrons. Écoutons Serge de Charente-Maritime, mais aussi Patrick de la Nièvre.
Je suis très en colère après M. Castaner, comme beaucoup de gens, en sachant qu'il va réprimander des manifestants. Mais c'est une dictature, ça, je rêve.
D'abord, je pense que le président de la République applique tout simplement le programme pour lequel il a été élu. Et donc, effectivement, quelques centimes, ça représente quelques euros sur une année. J'ai du mal à comprendre qu'on aille contre cette idée de protéger la planète. Je ne comprends pas.
Voilà donc, et à l'instant, Édouard Philippe, le Premier ministre, à propos des Gilets jaunes, dit qu'on ne va pas annuler la taxe carbone.
C'est vous qui le dites. Tous les matins à 7h42, réagissez à l'actualité en nous appelant au téléphone au 3921. Laissez-nous votre message sur le répondeur d'Europe 1 ou sur les réseaux sociaux avec le hashtag Europe 1.
Europe 1.
Il est 7h43, Pierre de Villeneuve.
À suivre, une interview qui prend un relief tout particulier ce matin après cette actualité dans la Nièvre dont on vous parlait dans le journal de 7h et 7h30. 8 personnes mises en examen, suspectées de viol et d'agression sexuelle sur 4 mineurs, 4 jeunes garçons. Interview d'Andrea Bescon, elle-même abusée sexuellement lorsqu'elle était enfant et qui signe un film qui raconte son histoire. Les Chatouilles, aujourd'hui en salle, c'est tout de suite.
C'est...
Il est 7h45, les principaux titres à retenir ce matin, Pierre de Villeneuve.
On ne va pas annuler la taxe carbone, déclaration à l'instant d'Édouard Philippe à 3 jours de la mobilisation des Gilets jaunes. Le détail des mesures annoncées dans le journal de 8h. Le Brexit, enfin un accord à l'amiable. Britanniques et Européens ont trouvé un compromis sur les conditions dans lesquelles le Royaume-Uni quittera l'UE en mars 2019. Une manifestation est prévue à partir de 18h à Marseille contre le mal logement. Le rassemblement aura lieu à proximité des deux immeubles qui se sont effondrés le 5 novembre. Novembre dernier.
Europe 1.
Pierre de Villeneuve, votre rencontre ce matin avec Andrea Bescon pour la sortie de son film Les Chatouilles.
Oui, c'est un entretien réalisé il y a 48 heures que nous vous diffusons ce matin. C'est important de le préciser compte tenu de cette information qu'on a appris hier après-midi dans la Nièvre, cette mise en examen de 8 personnes suspectées de viol sur 4 enfants. Les Chatouilles, sortie en salle ce mercredi. On écoute Andrea Bescon. Bonjour Andrea Bescon.
Bonjour.
Vous êtes comédienne, danseuse, chorégraphe. Aujourd'hui, vous portez au cinéma la pièce que vous avez jouée ces 3 dernières années, Les Chatouilles ou la danse de la colère. Le film s'appelle Les Chatouilles. Et puis, vous portez surtout un message fort qui est celui de la pédophilie.
Oui, il fallait parler des violences sexuelles sur mineurs. Et avec Éric Métayer, qui était le metteur en scène du spectacle,
qui est votre mari dans la vraie vie,
et qui est mon mari, on a réécrit vraiment pour une forme cinématographique de cette histoire et faire un vrai outil de cinéma autour de ce sujet et surtout autour de comment on se sort de ça et toute la reconstruction après un traumatisme.
Vous racontez votre histoire, celle de votre enfance, et pourtant vous n'avez pas voulu raconter, c'est un peu paradoxal, oui, cette histoire, puisque vous avez justement, et on peut le comprendre, prendre un peu de champ.
Oui, tout à fait. Il fallait se distancier. En même temps, il fallait apporter cette universalité parce qu'en fait, on est nombreux à avoir subi ça. Et je crois qu'il y a un vrai regard sociétal à changer.
On voit à la fin du film, c'est un enfant sur cinq.
Un enfant sur cinq, selon le Conseil de l'Europe, oui, de violences sexuelles visuelles à viol avec pénétration. C'est un vrai fléau. Maintenant, nous, ce film, on l'a surtout construit en termes d'espoir et en termes de combativité. Et en termes de dignité, en fait.
L'histoire, c'est que vous avez 8 ans, vous voilà sous le coup d'attouchement, de viols répétés, mm-hmm, de la part, en plus, c'est terrible, de l'ami de la famille, hein, oui, celui qui est là, vraiment, au coin de la rue et qui vient tous les jours comme, oui, le meilleur ami, la personne avec laquelle on a, l'enfant a confiance.
Tout à fait, mais c'est très souvent le cas, en fait. Hein, les enfants sont souvent victimes de gens de leur entourage. Donc, ce rapport-là à la personne, bien sous tout rapport, justement, interprété par un Pierre Deladonchamp, qui est tellement solaire,
beau
tellement
gosse,
beau,
père de famille heureux,
exactement,
une belle voiture.
Oui, ça aurait pu être... c'est Monsieur Tout-le-Monde, ça aurait pu être Madame Tout-le-Monde, d'ailleurs, parce qu'il y a aussi des agresseurs féminins, mais c'était... très important pour nous de sortir de cette espèce de caricature de oui, l'auteur de violence, quoi. Ce sont des gens qui...
Oui, d'ailleurs, Clovis Cornillac, à un moment donné, dit à sa femme, et à ton avis, il est comment,
oui,
le pervers sexuel, il s'habille comment?
Exactement,
il est forcément
ça,
caricatural.
On n'identifie pas concrètement.
C'est un film coup de poing, on n'en sort pas indemne, et pourtant, vous l'avez habillé, décoré, oui, mis en musique, il y a de l'humour aussi. Oui. C'est un choix, vous ne vouliez, oui, pas en faire un documentaire cru comme on peut en voir?
Exactement, puis nous, ce n'est pas notre nature avec Eric en fait. On aime vivre, on aime la vie, on la croque, on la bouffe. Et donc du coup, écrire ce film, on se dit ok, on y va quoi. Et donc on y met toute notre énergie, la danse, la poésie, du théâtre, enfin toute la nature en fait, l'énergie du théâtre, l'énergie du viscéral et de quelque chose qui passe d'abord par une vibration physique avant d'être intellectuel. C'est un film qui est est aussi grand public, qui est populaire, et on a voulu qu'il soit totalement accessible à tous et qu'il soit surtout solaire.
On a envie pendant tout le long d'encourager la petite Odette à parler.
Oui.
Et elle ne parle pas. Pourquoi est-ce qu'elle ne parle pas?
Parce que ce sont tous les mécanismes qui entourent les violences sexuelles sur mineurs, les états de sidération, l'emprise de l'adulte sur l'enfant, cet enfant qui a peur de parler parce qu'il a peur d'être puni, il a peur qu'on ne le croit pas, il a peur... C'est extrêmement compliqué. Et surtout, il y a la manipulation de l'adulte qui dit non, c'est un secret, on ne dit rien à,
et ça, ça
à qui
marque.
Que ce soit.
C'est indélébile.
Oui, tout à fait.
Parce qu'il y a des occasions aussi, à un moment donné.
Oui.
Voilà, je ne vais pas tout dévoiler, mais on se dit, tiens, là, c'est bon, elle va y aller.
Oui, mais c'est toujours ça. Ce sont des petites brèches comme ça dans la vie. Et si on loupe, ou si on nous le fait louper, malheureusement, ça ne sort pas. Donc, il faut encourager effectivement le dialogue et surtout sortir de l'aspect, encore une fois, caricatural des violences sexuelles. Je crois que malheureusement, ça arrive à beaucoup de monde. Et aujourd'hui, il faut pouvoir se relever de ça en ayant la tête haute et dire « ce n'était pas de ma faute et je n'ai pas à avoir honte, c'était la faute de l'auteur ». Moi, je suis innocente, et je suis en vie et j'ai envie d'être heureux, quoi.
Mais vous voudriez, vous, qu'on avance dans la législation, justement, sur ce sujet ?
Bien sûr, je souhaiterais.
Et si oui,
on va
comment ?
Passer loin. Je pense qu'il faut reconnaître l'amnésie traumatique dans la loi. Il faut inverser la charge de la preuve pour les enfants sur une notion de non-consentement.
Ça, c'est des termes techniques qu'on a du mal à
vous suivre. Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur un procès, un enfant est obligé de prouver qu'il n'était pas consentant, et ça devrait être l'inverse. Il n'y a pas de consentement.
Marlène Schiappa se bat d'ailleurs pour essayer de faire passer, de changer la loi.
Oui, sauf qu'évidemment, elle se confronte à des murs au niveau du Conseil constitutionnel ou le Conseil d'État. Bon, c'est beaucoup de choses. Il y a beaucoup, beaucoup de politiques. Il faut convaincre tout le monde et ce n'est pas simple de trouver le consensus.
Merci beaucoup, Andrea Bescon,
merci
de nous donner cet espoir, parce que c'est un film plein d'espoir, avec coécrit par votre mari, Éric Métayer. Oui. Et puis à vos côtés, Clovis Corniac, Karine Viard et puis la petite,
Cyril Mérès,
où est-ce que vous l'avez trouvé, ce petit ange?
C'est un casting sauvage, entre guillemets. Elle est venue à nous, il y a une évidence, on s'est parlé, on s'est compris.
Future et... grande actrice.
Hein. Oui, j'espère, oui. Elle a des parents formidables en plus qui l'entourent avec beaucoup de bienveillance. Une magnifique rencontre.
Merci, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Europe 1.
Europe 1, il est 7h51.
À suivre le Soumeco avec un chiffre déconcertant ce matin, 60% des cadres envisageraient de démissionner. Explication d'Axel de Tarlé. Et puis à ne pas manquer, dès le début du journal de 8h, on vous présente les mesures annoncées à l'instant par le Premier ministre Édouard Philippe pour faire face à la hausse des prix du carburant. A tout de suite sur Europe 1.
7h-9h, Pierre de Villeneuve sur Europe 1.
Il est 7h55, l'heure du Zoom Éco. Pierre de Villeneuve avec Axel de Tarlé.
Bonjour Axel.
Bonjour Pierre.
Nous sommes désenchantés vis-à-vis du monde du travail. C'est ce que vous nous dites. Plus de 60% des cadres pensent à démissionner.
Oui, quel cadre, quelle claque. Parce que vous savez, on ne cesse de parler du bien-être au travail. La nouvelle mode dans les entreprises, c'est d'avoir, vous savez, un Chief Happiness Officer.
Oui.
Vous savez ce que c'est ?
Oui, un chef du bonheur.
Un chef du bonheur, exactement. Alors ça fait plus chic en anglais. Un Chief Happiness, on peut même dire CHO. Voilà. Patatras,
pas CEO.
Patatras, 62% des cadres songent à démissionner, c'est ce que montre donc cette enquête cadre emploi. Pourtant qu'on ne s'y trompe pas, pour 92% des cadres, le travail reste quelque chose d'important ou de très important dans l'épanouissement personnel. Mais il y a comme une déception. En cause, je cite, le manque de perspectives professionnelles, les relations avec le management, ça en clair ça veut dire avec son patron, mais aussi des questions de rémunération. Donc autant de raisons qui poussent une majorité de cadres à vouloir démissionner, alors même si bien peu passent à l'acte, mais enfin ça crée un climat pesant.
Mais qu'est-ce qui cause ce désenchantement ?
Alors écoutez, on peut le voir de deux façons. Une façon négative, vous savez, on dit tellement maintenant qu'il faut être souple, qu'il faut savoir changer d'entreprise, qu'il faut se préparer à avoir plusieurs vies professionnelles, qu'il y a de moins en moins d'affect avec son employeur, c'est normal, on est là de passage, on sait qu'au moindre pépin, la collaboration s'arrête. Et donc, à force d'être souple, on est détaché, désimpliqué sur le départ. Et puis, il y a une autre façon plus positive de voir les jeunes, de voir les choses, notamment chez les jeunes. On le sait, vous savez, maintenant, l'époque où l'on entrait dans une entreprise à 20 ans pour en ressortir à la retraite, c'est terminé.
Aujourd'hui, vous et moi. Hein,
mais... Voilà, non, on va voir. aujourd'hui, en tous les cas, on nous dit qu'il faut avoir plusieurs vies professionnelles, plusieurs expériences. Et finalement, démissionner, changer de job, c'est pas un échec. Au contraire, c'est quelque chose d'enrichissant, c'est montrer qu'on sait s'adapter. Vous voyez, c'est une nouvelle façon de voir la vie professionnelle.
non plus comme une aventure collective, mais comme une aventure beaucoup plus personnelle.
Merci Axel de Tarlet, qui nous quitte donc.
Non,
non, restez. Il est 7h57, l'heure de la petite histoire du jour, Pierre.
Et je peux dire aussi ça de Jean-Philippe Ballas. Vous savez quoi, c'est juste avant 8h, tous les jours. Ce matin, Jean-Philippe, vous nous parlez d'un tableau qui pourrait bien battre un record cette semaine chez Christie's à New York.
Ouais, c'est une toile que vous avez déjà vue, forcément, même si, comme moi, vous n'y connaissez pas grand-chose en peinture. Elle date de 1972 et nous montre une piscine avec deux personnages. L'un est dans l'eau, il nage sous les reflets. L'autre le regarde debout, juste au bord. Les couleurs sont vives, la lumière est belle. Une impression de calme, de temps suspendu, mais une tempête, effectivement, les amis, qui s'annonce demain aux enchères. Puisque cette toile devrait devenir l'œuvre la plus chère d'un artiste vivant. Parce que oui, il est vivant. Il s'appelle David Hockney, le célébrissime peintre britannique. Il a 80 ans, il travaille toujours aujourd'hui. Et sa piscine est estimée à 80 millions de dollars. Là, je me tourne vers Axel de Tarlet. 80 millions de dollars d'euros, ça fait combien?
Ça fait un peu moins, dans les 70 millions d'euros. Ouais. Voilà.
Et on s'offre quoi avec 70 millions?
Je sais pas. Un Airbus A320. Voilà.
Un Airbus.
Un petit Airbus.
Donc autant dire que ça devrait voler haut, hein, dans quelques heures à Manhattan. Les coups de téléphone mystère, vous savez, des petits signes discrets, hein, au fond de la salle. Ouais. Ces acquéreurs qui souhaitent toujours rester anonymes, selon l'expression consacrée. Mais vous savez quoi? Je me demande surtout où il sera, lui, David Hockney, avec ses petites lunettes, son sourire de vieil homme turbulent qui doit savourer, hein, mine de rien. Il a une jolie formule d'ailleurs. Il dit: j'ai la vanité d'un artiste. Je veux que l'on puisse voir mes œuvres, mais moi, je n'ai pas besoin d'être vu.
Et Jean-Philippe Ballas s'y connaît très très bien en peinture, contrairement à ce qu'il dit. C'est un fan d'Edouard Hopper.
Ah, ça, c'est
Jean-Philippe Ballas, la petite histoire qui nous en met plein la vue tous les jours avant 8h.
À suivre le journal de David Doucan.
La météo avec Rénoval, le réseau national de véranda et abris de piscine.
Mais avant, la météo avec Laurent Cabrol.
Et attention aux brouillards, Laurent.
Oui, ils sont dangereux. Ce sont les premiers brouillards généralisés de la saison. Et ils sont très très nombreux et donc dangereux. Et je voyais sur les cartes de bison futé et d'infotrafic que les accidents sont assez nombreux aussi. 150, National 150, entre Royan et Saintes, entre Rennes et Nantes, entre Nantes et Brest, entre dans le Haut-Rhin, dans les Landes, autant de secteurs où des accrochages ont eu lieu, fort heureusement, sans gravité. Mais ces brouillards vont persister une grande partie de la journée et c'est ce qui nous inquiète, c'est-à-dire que nous aurons pratiquement une journée grise, hein, en dépit de l'anticyclone qui devrait nous signifier pour nous le beau temps, mais ça c'est en été, un anticyclone d'automne, ça veut dire que nous auront des brouillards très têtus. Une petite nuance quand même, ils seront un peu plus têtus qu'ailleurs dans la vallée de la Saône. Nous aurons de la pluie sur le Languedoc-Roussillon en raison des vents marins. Pour l'instant, il ne souffle pas beaucoup le vent d'automne, le vent marin, mais enfin, il va se renforcer dans le courant de la journée. Nous aurons 12 degrés à Dijon, puisqu'il n'y a pas grand chose à dire. Hein. 12 degrés à Dijon, 13 à Lille, 14 à Paris et Lyon aujourd'hui, 17 à Caen, 18 à Bordeaux, 18 à Toulouse, 20 à Biarritz et 21 à Marseille, dans un ciel très couvert.
Merci Laurent Cabrol. À suivre après le journal, les tweets sanguins et sanglants de Donald Trump à Emmanuel Macron. Ça sera avec Vincent Herouet et Audrey Crespo-Mara reçoit le député Rassemblement National du Gard, Gilbert Collard.
Merci d'être à l'écoute d'Europe 1 ce mercredi 14 novembre. Il est 8h. Et votre matinale info, c'est jusqu'à 9h avec Pierre Devineau.
Le journal, David Doucan, bonjour David.
Bonjour Pierre, bonjour
trois
à tous.
Trois titres à la une.
Opération déminage, annonce du Premier ministre ce matin avec une super prime pour changer de voiture. Interview du président ce soir. Le pouvoir met tout en œuvre pour calmer la grogne avant la révolte des gilets jaunes prévue samedi. Le détail des mesures dès le début de ce journal. Terrible affaire de pédophilie dans la Nièvre. 8 adultes ont été mis en examen. Les victimes présumées ont entre 4 et 9 ans. Leurs propres parents font partie des suspects. Et puis nous vivons aujourd'hui un tournant de l'histoire européenne. Un accord a été trouvé sur le Brexit entre Bruxelles et Londres. Mais Theresa May doit encore convaincre son propre camp. Journée décisive pour l'Europe.
Europe 1.
Des mesures pour éteindre le feu. Trois jours avant le blocage du pays promis par les Gilets jaunes, le Premier ministre vient d'annoncer chez nos confrères de RTL plusieurs dispositifs afin de compenser la hausse des prix du carburant. De quoi s'agit-il, Anne-Laure Jumet ?
Alors, d'abord, pas de changement de cap. Hein. La taxe carbone et les taxes sur le diesel et l'essence restent inchangées, mais des mesures pour répondre effectivement à cette grogne. Et le Premier ministre le dit, hein, nous avons entendu le besoin exprimé par les Français d'être accompagnés dans cette transition. C'est ce qu'il explique. Alors, ça passe effectivement par plusieurs mesures. La prime à la conversion, hein, pour échanger un vieux véhicule diesel ou essence contre un véhicule moins polluant, eh bien, 1 million de primes seront distribuées d'ici la fin du quinquennat. C'est un doublement de ce qui était prévu. Et il y aura effectivement donc une surprime pour les 20% 20% de Français les plus modestes. De 2000 euros, le chèque passera à 4000 euros pour l'achat d'un véhicule d'occasion. L'exemple donné
les
par...
Les plus modestes, mais aussi qui roulent beaucoup. Il faudra rouler plus de 60 km.
Il y a deux mesures. Ouais. Les plus modestes, le Premier ministre prend un exemple. Un couple de Français au SMIC avec trois enfants sera concerné. Il y a également une mesure pour les grands rouleurs, ceux qui font beaucoup de kilomètres. Là, le système d'indemnité kilométrique va être élargi pour les petites cylindrées. Voilà le package pour les automobilistes avec en plus une défiscalisation des chèques carburant proposés par les régions ou des aides au covoiturage.
Pour l'instant, il n'y a qu'une seule région qui le fait, ce sont les Hauts-de-France, mais le gouvernement espère que d'autres régions suivront ce dispositif. Ça, c'est pour les automobilistes. Que propose le gouvernement pour le chauffage à la maison ?
Alors, le dispositif porte sur le chèque énergie qui est réservé aujourd'hui aux plus modestes. Ça va continuer, mais ce chèque va être porté à 200 euros. Ça, c'était prévu. Il est de 150 euros aujourd'hui. Ce qui est nouveau, c'est que la cible va être élargie. Aujourd'hui, ça concerne 3,6 millions de Français. Demain, ça concernera 5,6 millions de Français. Voilà, on élargit un petit peu la cible à des ménages imposables, mais qui restent avec de faibles revenus. Au total, ce paquet de mesures présenté ce matin par Édouard Philippe
coûte
500 millions d'euros.
Un demi-milliard d'euros pour calmer la grogne des gilets jaunes. Est-ce que cela suffira ? Nous verrons samedi. En tout cas, c'est ce qu'espère l'exécutif qui se démultiplie aujourd'hui.
Ouais, même si Édouard Philippe dit la loi s'applique concernant les blocages de routes qui seront sanctionnés en écho à ce que disait Christophe Castaner hier. David Doucan,
Donc Emmanuel Macron
sera ce soir en interview à 20h sur TF1. Pardonnez-moi.
Un entretien depuis le porte-avions Charles de Gaulle où le président passera la nuit. Il parlera donc toujours pouvoir d'achat, mais aussi défense. Il abordera la question de la construction d'un second porte-avions, un chantier estimé à 5 milliards d'euros, dont la phase d'étude a d'ores et déjà été lancée. Et puis, la présidente du Rassemblement national, qui a bien l'intention de profiter du mouvement des Gilets jaunes, s'exprime ce matin dans la presse. Marine Le Pen éreinte le nouveau ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, qu'elle juge tout simplement incompétent.
Et maintenant, David, cette terrible affaire de pédophilie révélée hier dans la Nièvre.
Oui, la justice a mis en examen 8 personnes, les parents de 4 petits garçons âgés de 4 à 9 ans et 6 autres adultes, des hommes et des femmes. Ils sont accusés de viol et d'agression sexuelle infligée à ces enfants, probablement pendant plusieurs années. Écoutez Paul-Édouard Laloy, le vice-procureur de Nevers, au micro de Pierre de Cossette.
Les 4 enfants mettent en cause respectivement leurs propres parents et d'autres adultes qui gravitent dans l'environnement amical de leurs parents, pour des faits à chaque fois qui se seraient passés dans un huis clos familial total, sans aucun témoin extérieur aux scènes et sans aucune possibilité, notamment pour le voisinage, de s'imaginer que de tels faits pouvaient se passer. On est dans un milieu très carencé. Sur les 8 adultes, un seul avait un travail au moment de son interpellation la semaine dernière. Majoritairement des personnes sans emploi, vivant des minima sociaux, avec effectivement d'importantes carences sociales, sanitaires, et tout cela s'est traduit effectivement par les carences éducatives constatées chez les enfants.
Le vice-procureur de Nevers au micro européen de Pierre de Cossette, Paul-Édouard Laloy.
Également les suites du drame de Marseille.
Oui, on rappelle que l'effondrement de 2 immeubles en plein centre-ville a coûté la vie à 8 personnes. L'enquête judiciaire s'accélère. Des perquisitions ont été menées hier dans les services municipaux et chez le bailleur Marseille Habitat. Une manifestation des riverains est prévue ce soir. Le cortège doit arriver sous les fenêtres de Jean-Claude Gaudin. La pression monte sur la mairie. Nathalie Chevance.
Qui savait ? Qui sont les responsables ? Les enquêteurs de la PJ sont notamment repartis de la mairie avec des ordinateurs et différentes pièces liées aux arrêtés de péril pris ces dernières années. Pour l'instant, pas de garde à vue, mais déjà beaucoup d'auditions dans les services municipaux, auprès des bailleurs sociaux, des experts, des syndics, des propriétaires, dont un ancien conseiller régional LR. Une accélération de la procédure alors qu'ils sont des centaines de Marseillais directement concernés, évacués de chez eux dans l'urgence, parce que leur immeuble présente aussi un risque. Tous attendent des explications. Maître Joya, avocat au barreau de Marseille, reçoit depuis 8 jours leur doléance.
Si les Marseillaises et les Marseillais craignaient que l'affaire s'endorme, ils doivent être soulagés. Et je pense que les enquêteurs vont tracer l'information qui aurait dû alerter et qui a été mise de côté. À quel moment les élus étaient en capacité de savoir et n'ont pas agi. Mais j'ai peur qu'en réalité, ils ne soient confrontés à une culture qui sévit à Marseille depuis un demi-siècle, qui est la culture de l'indifférence.
Et la colère contre le maire et ses services risque de se manifester violemment ce soir sous les fenêtres de Jean-Claude Gaudin. Marseille, Nathalie Chevance, Europe 1.
Europe 1.
À suivre dans le journal de David Doucan, nous allons vivre aujourd'hui une journée décisive pour l'Union européenne. Un accord sur le Brexit a été trouvé, mais rien n'est fait. Vous verrez, à tout de suite.
Il est 8h08, votre matinée. matinale info, Pierre de Villeneuve.
La suite du journal, David Doucan. Un accord a été trouvé entre Bruxelles et Londres sur le Brexit.
Oui, et nous rejoignons d'ailleurs tout de suite notre spécialiste des questions européennes, Isabelle Horry. Vous êtes à Bruxelles. La principale avancée de ce texte, Isabelle, c'est qu'il propose une solution au problème qui fait capoter les négociations depuis des mois, la question de la frontière irlandaise.
Et oui, un point crucial, hein, parce que le retour d'une frontière raviverait les tensions entre catholiques et protestants sur l'île. Pour éviter ça, le compromis trouvé prévoit que Londres reste dans ce qu'on appelle l'union douanière. Concrètement, ça veut dire qu'il n'y aura pas de contrôle douanier entre les deux Irlandes. Mais ça veut dire aussi que pour le commerce avec le reste du monde, le Royaume-Uni sera toujours considéré comme un pays de l'Union européenne. Impossible donc pour les Britanniques de conclure des accords de libre-échange à part avec les États-Unis ou la Chine. Or ça, c'est important, c'était justement ce dont rêvaient les partisans du Brexit.
Mais effectivement, Isabelle, écoutons la réaction à chaud du premier des Brexiteurs, l'ancien ministre des Affaires étrangères Boris Johnson. Il est logiquement et tout simplement furieux.
Ça ne pouvait pas être pire. Nous allons rester indéfiniment dans l'union douanière et donc nous ne pourrons pas conclure d'accord de libre-échange avec d'autres pays ni reprendre le contrôle de nos lois. Nous serons soumis aux lois de l'Union européenne sans participer à leur élaboration. C'est la catastrophe.
Et le problème, David, c'est que plusieurs ministres au sein du gouvernement de Theresa May partagent l'opinion que nous venons d'entendre.
Oui, et cela pourrait bien tout faire capoter. Pour comprendre, prenons maintenant la direction de Londres. Anaïs Cordoba, vous êtes notre correspondante au Royaume-Uni. Rien n'est fait, Anaïs, parce que, en réalité, Theresa May va maintenant devoir convaincre sa propre majorité, c'est bien cela ?
Oui, et le moment de vérité sera cet après-midi, lors d'une réunion épreuve de force où elle va demander le soutien de ses ministres. Selon la presse britannique, une poignée d'entre eux serait très réservée. Leur soutien est crucial, mais pas suffisant. Le projet d'accord devra également recueillir une majorité à Westminster, au Parlement britannique, dans les semaines qui viennent. Et ça, pour l'instant, eh bien, ça paraît impossible, vu le tollé qu'il a suscité hier chez de nombreux députés. Alors même avec l'appui du cabinet aujourd'hui, les compteurs pourraient être remis à zéro d'ici Noël à Londres.
Merci Anaïs Cordoba pour ces explications qui posent bien les enjeux de cette journée décisive. Vous êtes la correspondante d'Europe 1 à Londres.
Allez, on va quitter Londres, David, pour les planches du théâtre Marigny à Paris.
Oui, et il rouvre ce théâtre ce soir après 5 ans de travaux avec une comédie musicale, Podane, l'adaptation du film de Jacques Demy. Thierry Geffrotin du service culture d'Europe 1 a assisté hier soir à la répétition générale.
Magique ce spectacle, tout d'abord pour la musique de Michel Legrand, avec évidemment la fameuse chanson de la recette du cake d'amour.
Préparez votre pâte.
Magique aussi le décor dans lequel se déroule toute l'histoire, une profonde forêt d'arbres au feuillage vert formant une arche au-dessus de la scène. Magique les costumes, ceux de Podane bien sûr et ses robes chatoyantes, couleur du temps, de lune et de soleil. Magique l'arrivée de la marraine avec des grappes de lilas descendant des cintres.
Mon enfant, on épouse pas plus sa maman.
Magique le moment où le prince et Podane chantent leur amour suspendu dans les airs.
Mais qu'allons-nous faire?
Hier soir, les premiers spectateurs sont tombés sous le charme de ce spectacle qui est mieux qu'une copie du film de Jacques Demy. Son épouse, Agnès Varda, elle aussi a été conquise.
On est ému. Ça prouve que c'est une œuvre qui est résistante. C'est beau.
L'adaptation du magnifique film de Jacques Demy, Podane, donc au Théâtre Marigny dès ce soir.
Merci, c'était le journal de David Doucan.
La matinale d'Europe 1. Pierre de Villeneuve.
Et à 8h12, Pierre, coup d'œil à l'international avec Vincent Hervouet.
Bonjour Vincent.
Bonjour Pierre.
Vous revenez sur les tweets de Donald Trump.
Ben, on lit les tweets de Donald Trump et on est tenté de se dire qu'avec des amis pareils, on n'a pas besoin d'ennemis. Et puis, on se souvient qu'hier, c'était le 13 novembre, qu'en 2015, la rédaction de Charlie Hebdo était massacrée au nom d'Al-Qaïda et les clients d'une épicerie juive au nom de l'État islamique. La France a de vrais ennemis. Les Américains ont les mêmes, on les a combattus ensemble en Afghanistan, en Irak, en Syrie, au Yémen, au Sahel, en Afrique, sur le net et en Europe aussi. Et cette fraternité d'armes continue. Sans les moyens de l'US Army, les parafrançais seraient cantonnés dans leurs casernes au Mali. Sans les grandes oreilles de la NSA, les services français auraient laissé passer des poseurs de bombes. Dans la résistance aux djihadistes, la France prend sa part du fardeau, mais Selon le Stimson Center, depuis le 11 septembre, les États-Unis avaient dépensé au printemps dernier 2831 milliards de dollars en prévention et répression du terrorisme. 2831 milliards. Alors on peut critiquer les méthodes, douter des résultats, mais il y a bien un ennemi commun, des moyens en commun, comme en 17, en 1917, comme en 1941.
Oui, mais Donald Trump a été insultant envers Emmanuel Macron.
Alors, est-ce que ça va nuire à l'un ou à l'autre? Eh bien non, bien au contraire. Alors, Emmanuel Macron a supplanté un temps Theresa May, Angela Merkel, les dirigeants des pays latins, des pays baltes, ceux de l'Est, qui rivalisent toujours pour être le meilleur ami de l'Amérique en Europe. Désormais, le président se veut le meilleur ennemi du trumpisme. C'est encore plus ambitieux parce que la concurrence, là, elle est mondiale. Emmanuel Macron et Donald Trump surjouaient d'autant plus leur amitié qu'ils n'étaient pas d'accord sur grand-chose. L'Américain balayait les arguments comme il époustait les revers de son ami français sans même l'écouter. Le danger, c'est qu'ils surjouent désormais leur opposition, leur inimitié, et que la guéguerre des égaux fasse oublier la guerre, la vraie.
Merci Vincent Hervouette sur Europe 1.
Europe 1, il est 8h14.
Vous restez avec nous dans un instant, l'invité politique d'Audrey Crespo-Mara, le député RN du Gard, Gilbert Collard, à tout de suite.
7h, 9h, 2h d'infos avec Pierre de Villeneuve sur Europe 1.
Il est 8h17, Pierre de Villeneuve.
Et c'est l'heure de l'interview politique d'Audrey Crespo-Mara, votre invité aujourd'hui, le député Rassemblement National du Gard, Gilbert Collard.
Bonjour Gilbert Collard.
Bonjour Audrey.
J-3 avant la journée des Gilets jaunes, j'imagine que le vôtre est prêt.
Oui, mon gilet jaune couleur cocu est prêt, je serai...
Couleur cocu.
Oui, le jaune c'est la couleur des cocus. Mais il y a des cocus qui sont contents et des cocus qui ne sont pas contents. Alors c'est peut-être l'heure maintenant pour le gouvernement de comprendre que les cocus des impôts, du reste, c'est la même racine qu'imposture, impôt. En ont assez, voilà.
Édouard Philippe a annoncé ce matin des mesures pour compenser la hausse des prix des carburants. Alors, on va essayer de résumer pour nos auditeurs. Pour le fioul et le chauffage, élargissement du chèque énergie, l'aide qui est de 150 euros passera à 200. Et puis surtout, elle concernait 3,5 millions de Français, elle concernera 5,5 millions de Français. Puis pour les voitures, extension de la prime à la conversion, c'est ce qui aide les Français à changer leurs vieilles voitures polluantes pour des voitures électriques, hybrides, neuves ou d'occasion. Et là, il y aura 1 million de primes financées pour le quinquennat. C'est deux fois plus que prévu. Et puis cette prime qui est autour de 1 000 euros, il y aura eh bien, une surprime de 4 000 euros pour les 20% de Français les plus modestes. Et puis le gouvernement élargira aussi pour ceux qui roulent beaucoup l'indemnité kilométrique. Toutes ces aides seront défiscalisées et ce sera au 1er janvier. Alors, l'esprit général.
Suppression du chauffage au fioul.
Chauffage au fioul d'ici à 10 ans. Plus d'aides pour se chauffer.
Aussi.
Ouais, moi, sinon, on va faire les 8
minutes. Ouais, enfin,
c'est l'inventaire à la Prévert. Juste l'esprit général. Ouais. Plus d'aide pour se chauffer et pour rouler. Ça va dans le bon sens?
Alors, écoutez, de toute façon, tout ce qui allège le fardeau fiscal qui fait de nous des frappés de scoliose d'impôts, c'est une bonne chose, Mais ce qui est quand même extraordinaire, et il faudrait que les auditeurs le perçoivent bien, c'est que aucune de ces mesures n'a été envisagée, inscrite, dans la loi de finances qui a été votée lundi.
Mais si le gouvernement n'avait rien fait là dans les jours qui précèdent le mouvement,
que le gouvernement
est la
trouille, qu'il est une colique politique, on s'en rend bien compte et il prend des mesures pour essayer de faire croire qu'il va donner le moyen de payer les taxes. C'est-à-dire c'est un univers de fous. On nous taxe et on nous donne précipitamment quand une manifestation d'ampleur populaire, pas politique, populaire, arrive pour la contrecarrer, on prend des mesurettes. Mais quand même, dans un pays de droit...
Qu'auriez-vous fait à la place d'Edouard Philippe et d'Emmanuel Macron d'ici à samedi?
J'aurais pas taxé le gasoil et l'essence.
On taxe pas ce qui pollue.
Et pourquoi on taxe pas Total, alors?
Vous pensez qu'il fallait se diriger vers Total et pas vers les Français?
Et bonne question, très bonne question, Audrey. Pourquoi on taxe pas le kérosène des avions? Pourquoi?
J'ai
Total, pourquoi on le taxe pas? Il vaut mieux taxer les pauvres gens qui vont bosser le matin.
Gilbert Collard, il y a aussi un autre argument. Quand la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, rappelle que le diesel tue, qu'il est classé cancérigène par l'OMS, que les particules fines augmentent le risque de leucémie de l'enfant,
Cet argument-là, il vous laisse de marbre ?
Oh mais non, mais attendez, pourquoi voudriez-vous que mais c'est pas le bon moyen de lutter contre la pollution. Il y a des facteurs de pollution qu'on connaît et contre lesquels on lutte pas. Par exemple, le kérosène des avions, je veux dire encore une fois, pourquoi on n'y touche pas ?
Alors pourquoi on n'y touche pas ?
J'en sais rien, moi, aller demander à M. Macron, ou à M. Castaner, ou à M. Philippe.
En tout cas, il y a deux arguments. Non, ce n'était pas mieux avant, puisqu'un SMIC permet aujourd'hui d'acheter deux fois plus de carburant qu'au début des années 70. Et non, ce n'est pas mieux ailleurs, puisque l'essence est plus chère. Je ne sais pas si vous avez vu en Europe, aux Pays-Bas, au Danemark, en Italie, le diesel est plus cher en Suède, encore en Italie, de Matteo Salvini, dont vous êtes proche.
Mais écoutez, il y a, la réalité, c'est que si on essaye de ne pas faire de politique, on se comprend. Bon. La réalité, c'est qu'il y a une acceptation psychologique de l'impôt. Aujourd'hui, on ne peut plus accepter. Et la taille, la gabelle, c'est à l'origine de toutes les révoltes et de toutes les révolutions. On a atteint un seuil de supportabilité fiscale qui est plus possible. C'est-à-dire que la moindre taxe, le moindre impôt aujourd'hui devient irritatif. On n'en peut plus. Mais est le pays le plus taxé au monde.
Vous savez, c'est ce que disait aussi Matteo Salvini quand il était dans l'opposition. Il faisait lui aussi la chasse aux taxes. En campagne électorale, le 11 mars 2018, le leader de la Ligue promettait: au premier conseil des ministres, je supprimerai cette taxe sur l'essence et les Italiens attendent toujours. Donc, est-ce que c'est pas plus simple de dire ça quand on est dans l'opposition ?
Alors, je ne savais pas que la référence pour les journalistes et pour j'en suis très heureux.
Vous entendez ce que je veux vous dire, c'est que quand on est dans l'opposition, on a des idées formidables.
Pour entendre, j'entendais très bien, même si je ne suis pas psychanalyste. Je ne pensais pas que la référence était Matteo Salvini, mais bon.
Quand on est dans l'opposition, c'est plus simple.
Mais il est vrai, c'est vrai. C'est tellement facile quand on est dans. Mais là. Le diesel et l'essence, 60% de taxes, faut quand même pas exagérer. Bon, et quel est le journaliste qui pourra dire qu'on n'est pas le pays le plus taxé du monde
En taxe sur l'essence et sur le diesel, il y a d'autres pays qui nous dépassent.
Mais oui, mais c'est compensé dans ces autres. Alors là, il faudrait faire un travail sérieux dans ces autres pays. C'est compensé par une légèreté fiscale dans d'autres domaines, ce qui n'est pas le cas en France.
Ce 17 novembre, des Républicains au Rassemblement National, en passant par la France Insoumise, toute l'opposition, qui jusque-là était incapable, depuis l'élection d'Emmanuel Macron, d'organiser des protestations d'ampleur, tente de surfer dessus. Ce mouvement, en fait, il a grandi sans vous, sans les partis politiques, et vous dépasse finalement.
Oui, c'est vrai. Tant mieux.
Tant mieux. Vraiment.
Tant mieux.
Ça vous échappe.
Moi, je dis, même si ça fait pas plaisir à mes amis ou à mes ennemis, ce qui est bien dans ce cas-là, tant mieux. Cela veut dire qu'il y a encore une spontanéité des masses.
Et une faiblesse des partis politiques d'opposition.
Et une très grande faiblesse des partis politiques d'opposition et une nullité du parti au pouvoir. Cela veut dire qu'il y a dans les soubassements de la vie politique française quelque chose que ni les politiques, ni les journalistes voient. Ça nous passe sous le nez, on le voit pas. Et peut-être qu'un jour, ça va nous siffler l'arrêt de la partie. Hein. Le peuple en a marre, voilà.
Le Rassemblement National n'est pas capable de l'entendre ?
Mais le Rassemblement National l'entend très bien. On a été les premiers à parler de ce mouvement. On a été les premiers à en avoir l'idée, du reste.
À le récupérer, diront certains.
Mais de toute façon, que faire d'autre que récupérer aujourd'hui ? Vous nous auriez accusé de récupérer la prise de la Bastille, si on en avait parlé à l'époque. Hein, bon.
Christophe Castaner a prévenu, les CRS seront autorisés à utiliser la force pour rétablir la circulation. Quand c'est la CGT qui cherche à bloquer la France, le Rassemblement National dénonce le trouble à l'ordre public et réclame lui-même l'intervention des CRS.
Mais quand il y a trouble à l'ordre public, faudrait-il encore qu'il y eut trouble à l'ordre public pour que Castaner vienne castagner. Bon, là,
pour
que Castaner vienne castagner. Castagner en marseillais, ça veut dire frapper, taper. Il a peur, il est mort de trouille, c'est la raison pour laquelle il dit attention, les policiers vont charger, il va y avoir.
Il est ministre
de l'Intérieur. Le peuple gronde. Oui, il est ministre de l'Intérieur, ouais. Du reste, il a tout fait pour l'être, mais moi je le trouve un peu à l'extérieur, notre ministre de l'Intérieur.
Merci Gilbert Collard.
Merci, c'était l'interview politique d'Audrey Crespo-Maram.
Europe 1, il est 8h25.
À suivre la revue de presse de David Abiker, l'actualité victime de ses transports. Et lui nous transporte chaque matin avec ses mille et une voix, c'est Nicolas Canteloup.
7h, 9h, Pierre de Villeneuve sur Europe 1.
Dans un instant, la revue de presse. presse de David Abiker.
La météo avec Rénoval, le réseau national de véranda et abri de piscine.
Mais tout de suite la météo avec Laurent Cabrol.
Beaucoup d'humidité sur la France, Laurent.
Oui, l'humidité est vraiment énorme et à ce point que, vous savez, nous sommes en situation anticyclonique. L'anticyclone, cela signifie que l'air est très lourd et donc il vient plaquer l'humidité au sol, de sorte que nous avons, bien sûr, des brouillards, on en parle depuis ce matin, mais aussi des petites pluies qui se manifestent à Niort, Cazaux, à Dinard, Saint-Quentin, Cherbourg, Toulouse, en banlieue parisienne. Donc ne soyez pas étonnés si vous voyez ces petites pluies, ces petites bruines. Elles ne sont pas dues à des nuages, elles sont dues simplement à l'épaisseur de l'humidité, à l'épaisseur des brouillards. Et elles vont se dissiper, bien sûr, ces brouillards comme cette humidité, ils vont se dissiper dans les heures qui viennent. Mais ce sera parfois très difficile, notamment sur la Bretagne, les vallées en général, quelles qu'elles soient, où les éclaircies seront toujours très aléatoires. On peut espérer quand même du soleil sur la France, mais il sera vraiment, sera un coup de chance pour vous si vous en avez un, vous jouez au loto tout de suite. En ce qui concerne les températures maximales, entre 12 et 17 au nord et entre 18 et 21 au sud, bien sûr, si ça se dissipe.
Merci Laurent Cabrol.
À suivre dans la prochaine demi-heure. Pierre.
Juste après la revue de presse, c'est votre journée coup de fil à l'écrivain Maxime Chattam qui signe une nouvelle pour les Restos du Cœur dans 13 à table. Et puis 8h40, il arrive le patron de l'imitation, c'est Nicolas Canteloup.
Nous sommes le mercredi 14 novembre, il est 8h30.
Pierre de Villeneuve sur Europe 1.
Tout de suite la revue de presse avec David Abiker, Pierre.
Bonjour David.
Bonjour Pierre, bonjour Céline et bonjour à tous. Alors dans la presse, ce matin, il y a un dessin signé Chonu dans Ouest France qui dit tout, un dessin qui dit tout. On y voit Emmanuel Macron sur le porte-avions Charles de Gaulle. Macron qui se demande s'il y a aussi un mouvement des gilets jaunes à bord. Alors qu'il se rassure, à bord du Charles de Gaulle, il n'y a que des gilets de sauvetage et encore. Et c'est à bord du porte-avions où il passera la nuit, nous rappelle ce matin l'Express.fr, que le chef des armées parlera aux Français sur TF1 ce soir. Et j'en profite pour rappeler pourquoi le Charles de Gaulle carbure au nucléaire et pas au gasoil. L'autonomie d'abord. Le Charles de Gaulle a une autonomie énergétique de 7 ans et demi quand un bâtiment normal doit faire le plein au bout de quelques jours. Ensuite, le coût. Si le Charles de Gaulle devait avancer au fioul, il lui faudrait embarquer 1,5 milliard de combustible pétrolier en litres. Vous me voyez venir, c'est un budget ça. Et si la propulsion nucléaire a été choisie en son temps, c'est pour se protéger des fluctuations du prix du pétrole. En réalité, le Charles de Gaulle, c'est une vraie pub flottante pour la transition énergétique. C'est la Zoé des mers. Sauf que la transition énergétique au nucléaire, ça risque de poser un problème dans les années qui viennent. Non seulement parce que les gilets jaunes ne sont pas prêts à troquer leur voiture contre une Zoé électrique, mais aussi parce que la mobilité est devenue un sujet central, un sujet hautement politique.
Les transports et les gilets jaunes au cœur d'un entretien de Marine Le Pen aux Parisiens aujourd'hui en France ce matin.
Et contre toute attente, Marine Le Pen explique ce matin dans le Parisien aujourd'hui en France pourquoi elle ne manifestera pas samedi aux côtés des gilets jaunes. Et la présidente du Front National a beau jeu d'expliquer que le rôle d'un responsable politique n'est pas d'être dans la rue, qu'elle ne s'abaisse pas au petit jeu de la récupération politique comme chez les Républicains par exemple. Et pour cause, son parti a été le premier à soutenir ce mouvement venu d'en bas, comme le rappelle Ouest France ce matin. Marine Le Pen en profite pour se payer aussi la maire de Paris et sa décision d'interdire Paris aux véhicules diesel fabriqués avant 2001. Voilà ce qu'elle dit. Au fronton de Boboland, la devise est mort aux pauvres. Pendant que le FN profite de la situation, l'opinion chante, oui, sur l'air de Nino Ferré. Vous avez pas vu Hulot, l'ancien ministre démissionnaire est aux abonnés absents. Lui qui a initié cette politique de taxation des carburants polluants. Lui que le gouvernement voudrait à ses côtés en ces moments difficiles. Mais non, Hulot ne parlera que la semaine prochaine dans l'émission politique de France 2. Dès qu'il faut passer à l'étape de la réalisation du concret, ça devient compliqué pour Hulot, siffle un membre de l'exécutif. Mais en réalité, ce qui est compliqué pour l'exécutif, c'est surtout l'absence de voix au sein de La République En Marche pour défendre la politique gouvernementale, explique Guillaume Tabar du Figaro ce matin. La crise des gilets jaunes révèle une crise dans le parti, une crise dans la Macronie.
Et plus globalement, il est largement question de transport et de mobilité dans la presse aujourd'hui.
Lionel Gougelot nous en parlait tôt ce matin. La Voix du Nord raconte la courte odyssée de 17 migrants iraniens, dont 3 mineurs qui sont parvenus dans la nuit de lundi à mardi à bord de l'épervier à rallier les côtes anglaises après avoir volé ce bateau de pêche à Boulogne-sur-Mer. Dans le sens inverse, de l'Angleterre vers la France, ce sont les taxis anglais qui vont débarquer bientôt à Paris, électriques, dans le supplément Auto du Monde. Vous les découvrirez, gros joufflu avec une vitre entre le passager et le chauffeur. Le Progrès revient également sur les naufragés du Paris-Shanghai d'Air France, bloqués en Sibérie, à Irkoutsk, depuis plusieurs jours, et ce malgré l'arrivée d'un deuxième avion incapable de redécoller en raison du froid. Je pourrais vous parler aussi d'un passager un peu bizarre qui hier a tenté de s'immoler dans le TGV au départ de Marseille, s'immoler au rosé, on lui souhaite bon courage. Et à lire surtout dans le Progrès, le fléau, ça vous fait rire Céline, hein, à lire dans le Progrès, le fléau des feuilles mortes qui tombent par tonnes sur les rails du réseau ferroviaire français. C'est dans le Progrès. Des feuilles d'automne, de la pluie, et voilà qu'il se forme sur les rails une épaisse couche végétale et glissante responsable de nombreux retards et incidents. Et là, vous découvrez des machines de nettoyage dont vous ne soupçonniez même pas l'existence ni le nom. Vous connaissez les wagons laveurs ? Ils projettent de l'eau à haute pression sur les rails. Et puis les trains brosseurs qui déblayent les feuilles. Et les sablières qui équipent certaines locomotives pour améliorer l'adhérence des roues sur les voies. Il s'en passe des choses sur le réseau pendant qu'on attend que le train reparte ou qu'on patiente sur un quai de gare en espérant qu'arrive enfin l'être aimé, qu'on va serrer dans ses bras. Tout ça à cause des feuilles mortes.
Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord.
On va laisser rêver David Abiker. Merci pour cette revue de presse.
Europe 1.
Il est 8h35.
À suivre, c'est votre journée coup de fil à l'écrivain Maxime Chattam. Il publie une nouvelle dans 13 à table, petit livre solidaire des Restos du Cœur. Et puis 8h45, Nicolas Canteloup avec Julie.
7h, 9h.
Pierre de Villeneuve sur Europe 1.
Il est 8h36, les principaux titres de l'actualité à retenir ce matin, Pierre Deville.
La loi s'applique, les blocages de routes seront sanctionnés, dit Édouard Philippe à 3 jours de la mobilisation des Gilets jaunes. Le Premier ministre qui annonce chez nos confrères d'RTL que la taxe carbone ne sera pas annulée, que le chèque énergie sera élargi pour bénéficier à 5,6 millions de foyers. C'est 2 millions de plus qu'aujourd'hui. Et puis une autre annonce, la volonté de supprimer les chaudières au fioul d'ici à 10 ans. Le bras de fer se poursuit entre Rome et Bruxelles sur le budget italien. Voilà que le gouvernement de Matteo Salvini demande de la flexibilité pour la reconstruction du pont de Gênes et les intempéries. Une marche de la colère prévue à 18h à Marseille, une semaine après l'effondrement de 2 immeubles. 8 personnes sont mortes.
Europe 1.
Pierre de Villeneuve, c'est votre journée.
Chaque jour, un coup de fil à celui ou celle qui fait l'actualité. Ce matin, l'écrivain Maxime Chattam. Bonjour Maxime. Pour situer ceux qui ne vous connaissent pas très bien, vous êtes l'auteur à la fois de nombreux thrillers, de récits fantastiques, notamment la fameuse trilogie du mal. Si je vous appelle ce matin, c'est que vous vous engagez dans ce livre Pocket pour les Restos du Cœur. C'est le fameux 13 à table qui existe depuis 5 ans. Pour un livre acheté qui coûte 5 euros, on distribue 4 repas. Vous êtes 15 auteurs et non pas 13, avec entre autres Philippe Besson, Tatiana Dronel, Leïla Slimani, bien d'autres. C'est important pour vous cet engagement ?
Oui, c'est même essentiel. À un moment, quand on s'approche d'un auteur et qu'on lui demande s'il ne peut pas essayer à sa manière de faire quelque chose pour les autres, quand c'est les Restaurants du Cœur qui vous demandent est-ce que vous n'auriez pas un tout petit peu de temps à nous consacrer, on ne peut pas refuser. Enfin, c'est une évidence. C'est un moment. Notre métier, c'est de créer, c'est d'inventer. Si en plus, au-delà de la solidarité au niveau de la lecture, de l'amour qu'on peut avoir à la lecture et de la propager, on peut avoir un peu de solidarité au quotidien, comment dire non, tout simplement.
Donc, chacun des 15 auteurs a écrit une nouvelle comme vous. Et vous voilà un homme qui, peu à peu, a l'impression, j'allais dire, de disparaître, de devenir un peu transparent.
Oui, comme si sa vie lui échappait. Ce sentiment que parfois, certains peuvent avoir, de dire, tiens... quels sont mes souvenirs? Comment se construisent les souvenirs d'un individu? Est-ce que tout est ordonné? Est-ce qu'il y a une sorte de longue trajectoire? Ou est-ce que si mes souvenirs s'effacent tout doucement, cela ne voudrait pas dire que je m'efface moi du monde? C'est la question que je me suis posée.
Ouais, et il y a une vérité évidemment à la fin de la nouvelle qu'il ne faut pas lire avant. Parallèlement,
non, surtout pas.
Parallèlement, vous sortez Le Signal, votre nouveau livre chez Albin Michel. C'est un nouveau thriller et là, c'est un livre qui fait peur comme vous les aimez.
Oui, c'est vrai que j'aime bien jouer avec nos émotions les plus fortes. La peur en est une. Et je trouve que se faire peur en lisant, c'est c'est finalement une émotion assez rare. On a cette possibilité d'être tranquillement installé sous sa couette ou dans son fauteuil préféré et de jouer avec nos peurs à notre vitesse telle qu'on a envie. C'est un plaisir pour un auteur de s'inventer dans une histoire et d'imaginer les émotions qu'on peut procurer à un lecteur.
Vous êtes bien aidé parce que la forêt, ça fait peur et vous écrivez toujours en face de la forêt, Maxime ?
Toujours au milieu d'une forêt avec ce matin un peu de brume, je peux vous dire que l'environnement est idyllique pour écrire des histoires qui font peur.
Alors je vous retiens pas plus longtemps. Merci Maxime Chattam d'avoir été en ligne avec nous ce matin. 13 à table, publié chez Pocket et Le Signal chez Albin Michel.
Europe 1. Il est 8h40, à suivre Pierre de Villeneuve.
Attention, il arrive à toute berzingue, c'est Nicolas Canteloup et sa revue de presse.
Il est 8h43.
Et voici Julie et Nicolas Canteloup.
C'est presque de l'info, c'est la revue presque de Nicolas Canteloup. Ils sont encore dans le studio, Audrey Crespo-Mara et son invité Gilbert Collard.
Gilbert Collard, est-ce que vous serez le 17 novembre parmi les manifestants, les gilets jaunes ?
Les gilets jaunes. Parlons-en des gilets jaunes, si vous voulez bien, jaune comme jaune cocu, car les manifestants supportent le fardeau, un impôt qui est sur leur dos. Cet impôt leur donne une scoliose avec hernie fiscale. Oui, j'aime l'image. Écoutez, ce gouvernement, disons-le, a la trouille. Alors il prend des mesurettes, il a la trouille, il est pris d'une colique politique, il prend des mesurettes à l'emporte-pièce avec des chèques chauffage. Mais de quoi parle-t-on ? Castaner a peur, il va castagner, il prévient, mais... Que voulez-vous que je vous dise ? Castaner, ce ministre intérieur, je le vois, je ne le vois pas. C'est un ministre à l'extérieur.
Non. Écoutez, monsieur Collard, ce sont des images, des éléments de langage, des formules.
Oui, mais écoutez, vous m'avez pris une formule à 11,50€, il ne faut pas rêver. Vous m'avez pris une interview à la carte, ça marchait, mais c'est plus cher. Bon, allez, je vous offre le café, Audrey.
Merci. À vous, Julie.
Merci à tous les deux. Il a montré sa fermeté à l'égard des gilets jaunes. Notre ministre de l'Intérieur a clairement dit « pas de blocage ». Il est avec nous ce matin. Bonjour Christophe Castaner.
Oui, bonjour. Merci pour cette musique qui me ravit, qui me conforte dans mon rêve d'enfant d'être policier. Écoutez, oui, vous pouvez enlever cette musique un peu ridicule.
Ah bah c'est le professionnel quand même. Oui. C'est vous.
J'entends bien, je connais tous mes belles-fondos, je les ai vus et revus avant de prendre le poste de ministre intérieur. Écoutez, vous le savez, j'ai une solide expérience de ministre intérieur. Je suis en poste non pas depuis un jour, non pas depuis deux jours, ni une semaine ou deux semaines, je suis déjà depuis trois semaines déjà. Donc je le redis avec autorité à nos citoyens. Je le redis en faisant les gros yeux, je le redis aux manifestants, je le dis n'en déplaise à Gilbert Collard, je n'ai pas peur. Donc, avec autorité, je le redis, il n'y aura pas de blocage.
Sinon ?
Il n'y aura pas de blocage. Sinon, chacun le sait, ça a tout bloqué. Oui, mais quand c'est tout bloqué, c'est pas pratique pour circuler. Quand c'est bloqué, chacun le sait.
C'est tout ce que vous avez à dire, Christophe Castaner.
Non, mais il faut que les choses soient claires. Parlons en toute transparence. Parce que moi, il faut le dire à nos concitoyens, je vous le dis à vous dans le studio, que ce soit M. Abiker, M. Apathy, M. Cabrol, Mme Leclerc, Mme Dacosta ou Mme Bouchard. Je vous le dis, je suis en stage de ministre de l'Intérieur. Je débute. Je suis en stage d'observation, un petit peu comme les enfants de collège en troisième.
Eh ben, ça fait peur. Hein, on ne vous sent pas trop à la hauteur, M. Castaner.
À l'auteur ? Ah non, non, non. Ça, bien entendu, je ne suis pas à l'auteur. Mais je ne suis pas tout seul. Le président de la République n'est pas fou.
C'est vrai que vous avez un binôme, un bras droit, Laurent Nunez.
Voilà, Emmanuel Macron a une confiance totale en moi, mais il préfère me mettre quelqu'un pour me surveiller. J'entends vos sourires. C'est très facile de sourire et de rire. Mais vous verrez qu'un jour, on m'enlèvera mes roulettes. Et je pourrai rouler tout seul, je serai un ministre intérieur autonome tout seul.
Eh ben on vous le souhaite. Hein. Et on nous le souhaite aussi d'ailleurs.
Merci beaucoup.
Au revoir Monsieur Castaner. Emmanuel Macron cherche la parade aux gilets jaunes alors que la protestation grandir. On va aller faire un petit tour en province. Tiens, au hasard, on va se rendre à Lyon.
Macron, t'es foutu. La vieillesse est dans la rue. Casse-toi, Castaner. Hein ? Allez, 10 balles le gilet jaune. Mesdames, messieurs, 10 balles, ce n'est rien, 10 balles.
Gérard Collomb, mais qu'est-ce que vous faites ? Vous vendez des gilets jaunes ?
Ah non, je donne 10 balles juste pour porter le gilet jaune. Et depuis que j'ai quitté le gouvernement, plus c'est le bordel, plus je suis heureux. Je vous ai dit que ça allait péter grave dans les banlieues. Je vous l'ai dit, ça.
Vous nous l'avez dit.
Allez, tout à 10 balles ou je remballe.
On vous laisse à votre commerce, Gérard Collomb. Marlène Schiappa a été épinglée par René Dosière pour des dépenses excessives dans son cabinet. Marlène Schiappa, vous auriez augmenté le salaire de vos collaborateurs de 26%. Est-ce que c'est vrai ?
Franchement, Madame Leclerc,
Ben Bouchard, Ben Acosta.
Oui.
Je refuse de parler aux machistes. Oui, parce que je refuse, bien sûr, vous l'avez compris, de parler aux machistes, oppresseurs et sexistes du studio. Sauf bien sûr à Pierre de Villeneuve. Car il a parlé, oui, je parle à Pierre de Villeneuve, car il a parlé en bon terme du film Chatouille, qu'il faut aller voir. Vous l'avez vu, car il faut aller le voir. Vous l'avez encore vu?
Bah attendez, il sort aujourd'hui, les Chatouilles.
Oui, mais ça, c'est pas grave, il faut aller le voir quand même. Bref.
Oui, ben on ira. Oui,
oui, il faut aller voir les Chatouilles, même s'il n'est pas sorti. Bref, ces allégations sur les salaires de mes collaborateurs sont fausses. Affirmer sans preuve que mes collaborateurs sont surpayé, c'est honteux. Laissez planer l'idée que je serais malhonnête, c'est terrible. Et de plus, cerise sur le gâteau, je vous le demande et je prends les Français à témoin. M'auriez-vous posé cette question si j'avais été un homme ?
Bah oui, bien sûr. Bien sûr.
Ah d'accord, mais c'est très bien. Alors, c'est la preuve que les mentalités sont en train de changer grâce à moi. Bravo, félicitations, Madame Julie. Voilà, au revoir, à bientôt.
Mais attendez, vous n'avez pas du tout répondu à ma question. Hein.
Pardon ?
Bah, vous n'avez pas répondu à ma question. Vous avez vraiment augmenté vos conseillers de 26% alors qu'ils ont déjà des salaires élevés ?
Oui, bien, je n'ai pas répondu à la question. J'esquive les questions. Je l'assume. Comme tous les hommes politiques, j'esquive les questions. C'est ça, la parité. Une femme a autant le droit d'esquiver la question qu'un homme. Excusez-moi de vous le dire.
Eh ben voilà, belle démonstration. À bientôt, Marlène Schiappa.
À bientôt.
Il sera ce soir interviewé par Gilles Boulot. Nous allons retrouver tout de suite le président Emmanuel Macron qui se trouve sur le porte-avions Charles de Gaulle.
Salut à toutes et à tous, c'est Papy Brugginton.
Vous le dites à Mme Julie si je me répète trop.
Non, trois fois rien, ça se voit à peine, hein. Franchement. Le porte-avions nucléaire vient d'être rénové pour 1,3 milliard.
Électrique. Un porte-avions, dites-le, électrique. Vous connaissez mon côté écolo. François de Rugy m'a mis une énorme pression, donc du coup on a tout modifié. Maintenant il marche à l'électrique.
Vous vous foutez de nous ou pas là?
Ben, écoutez, elle est mignonne. Mais bien sûr que je me fiche de vous, elle a failli croire. Il y avait quand même 2-3 indices dans la phrase. Moi écolo, de Rugy m'a mis la pression. Non, cela dit, heureusement, je n'ai pas eu à faire le plein parce qu'au prix du carburant...
Ah oui, d'accord. Oui.
Je vais m'en rire. Pardon.
Très drôle. Vous n'avez donc pas peur des blocages de samedi, des opérations escargot, hein, Emmanuel Macron ?
Opération escargot, non. Vous savez, j'ai connu la pire opération escargot.
Ah bon ?
Oui, elle avait duré 5 ans. Ça s'appelait le quinquennat Hollande.
Oh, allez, stop.
Allez, excusez-moi, mais je m'emmerde avec vous. Je vous laisse, je vais faire un tour de ski nautique derrière le Charles de Gaulle.
Ah, vous faites du ski nautique derrière. Bon, très bien. Bah, amusez-vous bien, hein, monsieur le président. Le mouvement des Gilets jaunes est soutenu par de nombreuses personnalités de l'opposition. Bonjour, monsieur Ciotti.
Oui.
Bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes Gilets jaunes, vous ?
Oui, je suis jaune et jolie.
Ah, c'est la meilleure. D'où vient ce mouvement, Eric Ciotti ?
Ce mouvement vient d'en bas.
Oui, 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 on l'a dit.
De tout en bas. Je le sais car j'y suis en permanence depuis 53 ans déjà.
Mon pauvre. Eric Ciotti, vous pensez que les taxes sur les carburants sont trop lourdes ?
Tout à fait, Madame Leclerc. Les prix à la pompe explosent. Avec un grand S. Le gouvernement, oui, explose. Et le gouvernement ne fait rien.
Ah, il y avait longtemps.
Donc, après cette explosion, je rappelle, j'appelle donc tous les Français, les Françaises à manifester comme moi. Par contre, je ne mets pas le gilet jaune.
Pourquoi ?
Hein ? Mais parce que ça, vous voyez, sur moi, ça fait, il y a une espèce de trou d'air, ça fait tant que je suis.
Éric Ciotti, ça coûte combien un plein d'essence chez vous à Nice ?
Écoutez, je vais être très sincère avec vous, je n'en sais rien.
Ah bon, vous n'avez pas de voiture, vous ?
Si, mais je n'arrive jamais à atteindre le pistolet de la pompe.
Faites-vous aider, enfin.
Je vois que M. Cabrol a l'image.
Allez, bon courage à vous.
Je vous en prie.
Elle a fustigé la hausse inconsidérée de la, du carburant.
Sur vos chaussures, je suis en train de passer. Oui, bon.
Donc, elle aussi a fustigé la hausse inconsidérée du carburant, je le disais, elle sort un livre comme Michel Obama, qui arrive d'ailleurs en France hein, très bientôt. Oui. On accueille Ségolène Royal.
Oui, oui, merci de la comparaison. Bah oui, c'est vrai, je suis quelque part la Michel Obama du Poitou.
Bon, alors on va relativiser les choses quand même. Hein. Les mémoires de Michel Obama ont été publiées à 3 millions d'exemplaires. Hein. C'est une sortie mondiale. C'est traduit en 25 langues. C'est quand même pas votre cas, Ségolène Royal.
Oui, j'écoutais effectivement au niveau des chiffres, je suis peut-être en dessous. Hein. Mais ce n'est pas que de ma faute, c'est parce que j'ai fait la connerie de me mettre en couple avec l'autre con, là. Cela dit, avec tout le respect que je lui dois, bien ouais, entendu, on part pas avec les mêmes atouts, Michel Obama et moi. Hein. Moi, t'es Barack, voilà, moi, t'es François. C'est pas les mêmes spécimens. Hein. Et dire que c'est le beau qui est fidèle, Mme Bouchard. Hein, franchement, la vie est mal foutue quand même.
C'est sûr.
C'est vrai, je pose la question aux femmes du studio.
Oui.
Tu choisis François Hollande, a priori, tu te dis, je peux laisser les clés dessus.
Oh,
ouais, eh ben non.
Oh,
en fait,
écoutez, franchement. Le journal Les Échos révèle que les époux Obama ont touché une avance de 60 millions de dollars. Non, qu'est-ce que c'est, 60 millions de dollars?
Oui,
c'est possible, ça?
Oui, c'est possible.
Pour leur mémoire, j'ai cru que je lisais mal. Non, c'est ça?
Oui, nous, on nous a proposé 20 bols.
Ah, bah oui.
Ah, bah écoutez, que voulez-vous? C'est les States, hein, c'est une autre échelle.
Merci à Nicolas Canteloup et à Julie. Et place au tour de la question tous les jours de 9h à 11h. Bonjour Wendy Bouchard.
Bonjour Pierre, bonjour à tous. On va parler santé aujourd'hui avec ce dossier médical partagé, le carnet de santé numérique que le gouvernement souhaite généraliser pour 40 millions de patients d'ici à 2022. Je ne sais pas si vous avez déjà fait votre demande.
Pas encore.
Ça se fait en quelques
pas
clics sur Internet. Mais on va vous expliquer surtout la vertu de cette collecte de données personnelles, traitements, allergies, pour rendre plus efficace le parcours de soins. On vous explique tout ça et vous nous dites si cela vous inspire au 39-21. Et puis à 10h, on va parler de la série 10%. Dominique Besnéard, le concepteur et le producteur, sera avec nous, ainsi que Béatrice Dalle. Un certain nombre d'invités de ces séries témoigneront comment on comprend grâce à cette série les coulisses du cinéma et la personnalité des acteurs côté face. Vous voyez ce que je veux dire?
Merci.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure, Wendy Bouchard.
À suivre l'essentiel de la matinale juste avant 9h et la météo de Laurent Cabrol sur Europe 1. 8h56, Pierre Devineau, l'heure de la météo avec Laurent Cabrol.
Comment s'habille Laurent?
Alors, vous prenez ou le chapeau,
parapluie.
Ou le parapluie, si vous voulez.
Imperméable.
Oui, vous pouvez en prendre un.
Un maillot de bain,
tant qu'à faire. C'est la météo coup de bol. Voilà, vous voyez ce que je veux dire, c'est une météo coup de bol, c'est un peu ça. Parce que depuis ce matin, je vous parle beaucoup de brouillard, de brume et de toutes ces méchancetés qui nous sont tombées dessus dans la nuit. Eh bien, c'est un peu ça. Vous savez que les brouillards seront plus têtus lorsqu'ils se situent dans les vallées, près des forêts, près des plans d'eau. Et donc, à quelques kilomètres, vous pouvez être sous un ciel gris et pénible, ou alors sur un soleil rayonnant et agréable. Voilà, c'est pour la raison pour laquelle on ne doit pas trop se lancer dans du détail, ça ne sert à rien. Si, quand même, si vous êtes en Bretagne, dans les différentes vallées de la Garonne, de la Seine, du Rhône, là, vous aurez des éclaircies très très discrètes et un voile très épais dans la vallée de la Saône et sur le Languedoc-Roussillon, nous avons du vent marin. Mais dans l'ensemble, tout le monde est logé à la même enseigne, c'est-à-dire le coup de chance. Si le soleil est là, bah, vous êtes content, vous êtes heureux, vous êtes presque au printemps. Et puis s'il n'est pas là, bah, vous attendez demain. Voilà.
Merci.
Les températures entre 12 et 17 au nord et entre 18 et 21 au sud, là aussi c'est le coup de bol. C'est en fonction du soleil ou pas, eh bien, vous aurez chaud ou frais.
Merci Laurent Cabrol.
Nous sommes le mercredi 14 novembre. On revient sur les moments forts de cette matinale, Pierre Devineau.
C'est l'essentiel. Ce qu'il fallait pas rater ce matin, cela suffira-t-il à éteindre l'incendie? Trois jours avant le blocage du pays promis par les Gilets jaunes, le Premier ministre Édouard Philippe vient d'annoncer sur RTL plusieurs mesures pour compenser la hausse des prix du carburant. Mesures qu'on vous présentait dans le journal de 8h avec Anne-Laure Jumet.
Plusieurs mesures. La prime à la conversion. 1 million de primes seront distribuées d'ici la fin du quinquennat. C'est un doublement de ce qui était prévu. Et il y aura effectivement donc une surprime pour les 20% de Français les plus modestes.
Que propose le gouvernement pour le chauffage à la maison?
Le chèque énergie, qui est réservé aujourd'hui aux plus modestes, va être porté à 200 euros. Ce qui est nouveau, c'est que la cible va être élargie. Aujourd'hui, ça concerne 3,6 millions de Français. Demain, ça concernera 5,6 millions de Français. Au total, ce paquet de mesures coûte 500 millions d'euros.
Et notez que le président de la République, Emmanuel Macron, présentera lui-même ses mesures ce soir aux 20h de TF1, délocalisé sur le porte-avions Charles de Gaulle. L'autre actualité de cette matinale, c'est cette terrible affaire de pédophilie révélée hier dans la Nièvre. 5 hommes, 3 femmes mises en examen pour viol et agression sexuelle répétée sur 4 enfants dès leur plus jeune âge. Les suspects, les parents et leurs amis. On écoute le vice-procureur de Nevers, Pierre-Édouard Laloy. C'était à 8h sur Europe 1.
Les 4 enfants mettent en cause respectivement leurs propres parents et d'autres adultes qui gravitent dans l'environnement amical de leurs parents. Pour des faits à chaque fois qui se seraient passés dans un huis clos familial total, sans aucun témoin extérieur aux scènes et sans aucune possibilité, notamment pour le voisinage, de s'imaginer que de tels faits pouvaient se passer.
Une actualité glaçante qui prend une résonance toute particulière alors que sort aujourd'hui en salle Les Chatouilles, un film inspiré de l'histoire de la réalisatrice Andrea Bescon, abusée sexuellement lorsqu'elle était enfant. En Europe, c'est un enfant sur cinq qui serait victime d'abus, souvent de la part d'un proche. Des enfants qui, pour beaucoup, se murent dans le silence. Andrea Bescon m'expliquait pourquoi tout à l'heure à 7h45.
Les états de sidération, l'emprise de l'adulte sur l'enfant, cet enfant qui a peur de parler parce qu'il a peur d'être puni, il a peur qu'on ne le croit pas. Et surtout, il y a la manipulation de l'adulte qui dit non, c'est un secret, on ne dit rien. Donc, il faut encourager effectivement le dialogue et surtout sortir de l'aspect caricatural des violences sexuelles.
Voilà pour l'essentiel de la matinale. Merci à tous, merci à l'équipe du 7-9. Demain, vous retrouvez Nikos Aliagas et moi, je vous dis à très bientôt.
Et merci à vous, Pierre.